Salut à tous et bienvenue dans Tech Café, vous écoutez le 111e épisode, le 111e épisode de Tech Café que nous enregistrons le 20 décembre 2018. Tech Café, c'est un podcast audio hebdomadaire où on vous fait le tour de toutes les news tech qui, selon nous, devaient ne pas être manquées et qui surtout sont propices à analyse et à regard critique des uns et des autres qui participent à Tech Café. Je suis Guillaume Vendée et je suis ravi de retrouver le cerveau des news de Tech Café, le rédacteur en chef et celui qui maintient le podcast même quand je ne suis pas là. J'ai nommé Guillaume Poggiaspala. Salut Guillaume.
Oui, salut. Du coup, si ça va pas, si c'est pas bon, ben ça va être ma faute hein, du coup.
Non, même pas. Je pense pas que ce soit de ta faute, de toute façon. Donc, on vous retrouve pour le dernier épisode de Tech Café de l'année. Peut-être qu'on peut vous souhaiter par avance joyeuses fêtes. Peut-être que vous écoutez même cet épisode, je sais pas, entre Noël et le jour de l'an, en des périodes un petit peu festives. Donc, avec modération, mais avec plaisir quand même. Et si vous découvrez Tech Café, donc c'est un podcast hebdomadaire sur la tech en audio, où vous pouvez notamment réagir. Vous pouvez réagir sur techcafé.fr. Il y a un article qui accompagne la publication de chaque épisode et vous pouvez donc aller déposer un petit commentaire sur cet article si jamais il y a des choses qui prêtent à des corrections ou à être complétées par des choses que vous pourriez voir passer. Et si vous ne l'avez évidemment pas déjà fait, vous pouvez ajouter l'émission à votre lecteur de podcast favori sur iOS, il y a l'app podcast et puis sur Android, il y a pléthore d'autres apps de podcast. Et si vous voulez aider votre entourage à découvrir Tech Café, vous pouvez même leur dire d'aller dans un navigateur sans même vous soucier de savoir sur quel appareil est-ce qu'il va, mais vous lui demandez d'aller sur techcafé.fr/go et ça va le rediriger automatiquement selon s'il est sur iOS, sur Android, sur un endroit où il pourra écouter l'épisode très facilement. Et puis dernier préambule avant qu'on attaque les news, c'est que Tech Café est disponible avec un financement participatif avec la plateforme Patreon. Vous pouvez aller jeter un coup d'œil à patreon.com/techcafé et vous verrez qu'il y a une centaine de personnes qui écoutent Tech Café mais qui choisissent en plus de l'écouter de contribuer avec des petites sommes de l'ordre de 1$ par émission. Et qui contribue à faire de ce podcast un véritable travail pour moi et pour Guillaume Poggiaspala, et en faire une source de rémunération à part entière. Donc merci beaucoup à vous qui nous avez accompagnés toute cette année dans Patreon, et merci à vous si jamais vous faites la démarche d'aller en savoir un petit peu plus sur la page de Patreon. Le lien est dans les notes de l'émission. Guillaume, j'ai participé hier à un épisode de NipTech, qui est un autre podcast sur la tech, qui et plus axé réflexion de fond, tu vois, ils font moins l'actu chaude telle que nous on peut la relayer chaque semaine, mais peut-être qu'ils la traitent avec un regard un peu plus critique, avec un peu plus de profondeur. Et on a fait un épisode de bilan annuel. On était donc 4 à faire un petit peu le tour de ce qu'on trouvait qui nous avait marqué en 2018, de ce qui nous marquerait en 2019. Et du coup, je trouvais ça intéressant, peut-être juste avant qu'on attaque les news, de savoir, toi, Guillaume, si tu devais désigner plutôt une tendance marquante en 2018, et si jamais tu devais anticiper une grosse tendance en 2019, quelle serait-elle ? Et attention, c'était pas du tout dans le conducteur, donc je prends Guillaume Poggiaspala par surprise.
Écoute, je pense que je prendrais le deep learning et l'intelligence artificielle, en tout cas appliquée à de plus en plus de domaines et de plus en plus présente en fait dans nos vies. Je pense qu'il y a eu un véritable essor cette année, même si évidemment c'est pas cette année que ça a commencé véritablement. Et d'ailleurs, on va le voir dans la séquence qui suit. D'ailleurs, je prends uniquement cette réponse pour permettre de faire une transition plus facile avec la réplique d'après.
Une transition plus trouée.
Exactement.
C'est parfait. Et donc, un petit aspect quand même prospectif sur 2019.
Je pense qu'on va tous plier.
Que tu devrais voir émerger. D'accord. Bon, écoute, on va étudier tout ça. Mais en tout cas, c'est rigolo parce que sur l'intelligence artificielle, alors peut-être que c'est parce qu'on est tous les deux sur Tech Café et peut-être que tes choix de news m'orientent, mais c'est rigolo, j'ai dit exactement la même chose dans NipTech, c'est que la tendance pour moi de 2018, c'était vraiment l'essor de l'intelligence artificielle. Et notamment de toutes les discussions qu'on a pu avoir. Je me rappelle cette année, on a notamment beaucoup discuté des enjeux, des risques. On a parlé de ce que disait Elon Musk au sujet de l'intelligence artificielle. On a parlé des biais et on a parlé de beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses autour de l'intelligence artificielle. Je pense que ça s'est installé et que ça va être d'année en année maintenant quelque chose qui va s'installer de plus en plus. Alors justement, sans autre forme de procès, on enchaîne avec les news que tu nous as sélectionnées cette semaine. Et on attaque, alors vraiment, c'est bien fait, puisqu'on va effectivement parler de deep learning. On avait déjà parlé des algorithmes DeepMind de Google qui arrivaient à rivaliser, bon c'était petits joueurs, mais à rivaliser avec des grands pontes des échecs. On avait parlé, et c'était un autre exploit encore, d'arriver à battre des joueurs de Go, parce qu'on se rappelle, le jeu de Go est beaucoup moins soumis à un arbre de décision, mais vraiment beaucoup plus complexe dans son approche. Et là, on vient de passer un nouveau palier. Alors, c'est pas exactement un nouveau jeu, mais c'est une démarche qui est encore plus fluide dans l'apprentissage du jeu de Go, voire même de l'auto-apprentissage, Guillaume.
Oui, vous vous en souvenez tous, hein, en 2016, hein, c'était AlphaGo qui avait battu Lee Sedol, donc le champion du monde de la discipline du Go. C'était historique, hein, parce que c'est vrai que le jeu de Go est un jeu de plateau très compliqué pour un ordinateur, vu l'explosion combinatoire vraiment énorme, qui est bien supérieure à celle des échecs, hein, qu'il faut pouvoir maîtriser un petit peu. Et donc, tu disais, oui, en 97, il y avait donc du Deep Blue d'IBM qui a battu Kasparov. C'était déjà un premier jalon dans le domaine. Alors, donc en 2016, il y avait AlphaGo. En 2017, peu après, il y avait eu AlphaGo 0. On en avait parlé aussi. Lui, il avait réussi à atteindre, puis à dépasser le niveau d'AlphaGo, mais tout seul, en jouant contre lui-même. Parce qu'AlphaGo a appris à partir des parties qui ont été jouées par des êtres humains, plutôt. AlphaGo 0, lui, il joue tout seul, et donc il apprend tout seul ce qui marche et ce qui ne marche pas. Donc il apprend sans intervention humaine, et en quelques heures, il avait réussi à dépasser le niveau d'AlphaGo. Et bien AlphaGo 0 s'est vu améliorer et généraliser, en fait, hein, sous la forme d'Alpha 0, cette fois. C'est une IA qui est capable d'apprendre et de se perfectionner seule à virtuellement tous les jeux de plateau de ce type, en fait. Hein. En 3 heures, elle a réussi à dépasser tous les autres logiciels au Go, y compris AlphaGo 0, donc, mais aussi aux échecs et au shogi. Le shogi, c'est un jeu qui est un jeu japonais qui est voisin des échecs.
Rien à voir avec
absolument.
Nous.
Non, 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 ça, pardon.
Non, mais on s'appelle tous les deux Guillaume, Shogi.
Non, 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 pas si chaud que ça.
C'est pas terrible.
Ça dépend des fois. Et donc, ouais, il apprend non seulement il apprend tout seul, mais il apprend aussi plus vite, puisqu'il faut moins de 5 millions de parties qui suffisent à Alpha 0 pour dépasser AlphaGo, alors que lui, il avait besoin de 30 millions de matchs pour arriver au même niveau. Hein, donc, c'est une page qui se tourne. Comme avec les échecs en leur temps, hein, c'est un peu l'ensemble des jeux de plateau qui sont désormais dominés par les machines. Donc non seulement un ordinateur peut battre n'importe quel être humain, mais il peut même inventer ses manières de jouer, des manières de jouer complètement nouvelles, puisque son savoir-faire ne repose pas sur le nôtre. Et donc, il peut nous montrer des manières de jouer auxquelles personne n'avait pensé jusqu'ici. Alors ça n'empêche pas les humains de continuer à jouer aux échecs dans leur coin, entre eux, ni d'ailleurs les machines de jouer dans leur coin entre elles, puisque c'est ce que font les échecs, c'est ce qu'elles font aux échecs tous les ans d'ailleurs. Mais ce qui est sympa, c'est qu'on peut apprendre une nouvelle stratégie. Enfin, c'est surtout elles qui peuvent nous en apprendre, en fait, je pense, beaucoup plus que l'inverse. Alors, il faut voir qu'Alpha 0, c'est quand même, pour l'instant, encore une très très grosse machine, hein, puisque ça ne peut pas être installé sur ton PC, ça requiert quand même un cluster de 5000 Tensor Processing Units. C'est des puces spécifiques au deep learning, donc, qui sont fabriquées par Google, ce qui correspond globalement à la puissance d'un superordinateur. Hein. Donc, c'est vraiment, voilà. Donc, les jeux de plateau, c'est plié. Alors maintenant, il faut s'attaquer à de nouveaux challenges. Et bon, par exemple, il y a les challenges qui sont soit les jeux de plateau soit des jeux de stratégie, on va dire, pardon, qui sont beaucoup plus fluides, c'est-à-dire qui ne sont pas sur des cases comme StarCraft, qui posent des challenges vraiment différents, ou alors des jeux où l'information est incomplète, comme le poker. Et ça peut être vraiment très intéressant parce que le poker, encore à l'heure actuelle, est très difficile à maîtriser pour une machine. Alors, la question qu'on se pose évidemment, c'est comment une machine va-t-elle reconnaître ? Est-ce qu'il y aura une reconnaissance faciale pour pouvoir savoir si le mec d'en face bluffe ou pas ?
J'y avais pas pensé.
Ou est-ce qu'il en aura pas besoin ? Je sais pas. En tous les cas, le poker, c'est probablement un nouveau défi pour DeepMind et compagnie.
Quelque chose me dit qu'on va reparler justement de reconnaissance faciale d'ici peu. Moi, ce que je trouve génial, c'est de voir effectivement cette évolution qui fait qu'on est obligé de passer à d'autres jeux plus compliqués. Ce qui est rigolo aussi, c'est que je m'imaginais du coup que dans l'apprentissage de ces algorithmes, parce que, en fait, quand on joue aux échecs, on sait qu'il y a ce qui s'appelle des ouvertures, on sait qu'il y a des enchaînements un peu logiques, conventionnels, enfin, il y a certains coups qu'on ne va pas jouer, notamment au lancement de partie. Et je me demandais si il y avait des équivalents au Go, j'imagine que oui, et du coup je me demande si on arrive à retrouver dans les actes qui sont opérés par ces algorithmes dans un jeu, dans une partie de Go, est-ce qu'on arrive à retrouver les fondamentaux qui sont enseignés aux joueurs débutants du jeu de Go ? Est-ce que grosso modo on retrouve ce qui est recommandé de faire au début ? J'imagine que oui, et donc c'est là où ça doit être fascinant, c'est de se rendre compte à quel point des algorithmes en apprenant le jeu simplement avec les règles et pas forcément en leur disant comment il faut jouer, vont peut-être arriver aux mêmes conclusions stratégiques que les humains ont mis des centaines, voire des milliers d'années à acquérir. Je trouve ça fascinant, moi, de voir ce parallèle. Et puis j'avais une suggestion de jeu pour les personnes qui sont derrière ces algorithmes d'intelligence artificielle, pour les challenger un peu plus, c'est d'arriver à leur faire faire un jeu de rôle sur table. Donc d'avoir le personnage, la feuille de personnage, c'est comme, enfin moi qui suis passionné de jeu de rôle sur table, où t'as ta feuille de personnage sur papier, les dés à l'ancienne, et je trouve que s'il y avait une intelligence artificielle qui arriverait à être suffisamment crédible de par son esprit d'initiative et son esprit d'interprétation pour faire un joueur dans une partie de jeu de rôle, ce serait incroyable.
Il faut être très créatif aussi. Enfin, je veux dire, il serait joueur, eh ben oui, ou il serait maître du jeu du coup.
Ouais. Ah non, alors moi, le gros challenge serait qu'il soit joueur, parce que maître du jeu, finalement, quand on imagine aujourd'hui, alors peut-être pas dans certains niveaux de détail, mais des créations de mondes aléatoires, des scénarios types, etc. Je pense que ça, finalement, c'est pas le gros challenge. Mais le gros challenge, c'est de jouer autour d'une table. Donc il y a trois humains, admettons, deux joueurs, un maître de jeu, et il y aurait une machine qui serait un autre joueur et qui arriverait à, du coup, peut-être être aussi créatif que d'autres joueurs, à interpréter son personnage. Et il y a deux niveaux, en plus, d'interprétation. Il y a l'interprétation avec les joueurs, il y a l'interprétation du personnage. Je sais pas, moi ça me fascinerait de voir qu'un jour une intelligence artificielle arrive à faire ça.
C'est clairement là un truc qui se rattache à la compréhension du langage naturel déjà, ce qui est déjà assez complexe, mais qui dans une certaine mesure existe déjà de manière assez sophistiquée, puisqu'on pense immédiatement à Watson, hein, qui est capable de comprendre des questions, ou même de fabriquer des questions, à l'inverse, avec OGeoPardi.
Certains paramétrages de
Donc,
Watson.
Donc à l'extrême limite, c'est pas complètement hors de propos, mais bon, après par contre, c'est vrai que pour l'entraînement, il faudrait qu'il voit des parties de jeu de rôle, il faudrait, tu vois, ce serait assez complexe, je suppose.
Bien sûr, il pourrait pas auto-apprendre, je pense.
Bah, écoute, c'est pas exclu. Ouais, pourquoi pas, ça peut être assez marrant. Puis avec la couche langage en plus, c'est vrai que ça peut être assez marrant comme truc, ouais, assez intéressant.
Je vais en parler à Google, on va voir s'ils vont s'y mettre. En attendant que j'envoie mon petit mail à l'équipe de Google, le deuxième sujet que tu avais sélectionné dans la droite lignée du premier, c'est encore du deep learning, encore de l'intelligence artificielle. Là, il s'agit tout simplement de remplir ces sempiternels CAPTCHA qui sont justement prévus pour faire le tri entre les pauvres humains que nous sommes et les machines qui viennent remplir des formulaires à l'insu de notre plein gré. Et là, c'est une étude que tu as épluchée. Est-ce que tu as lu l'intégralité de l'étude, ou est-ce que tu en tires des conclusions?
Non, j'ai pas lu l'intégralité de l'étude, j'ai pas lu le truc original, effectivement. Mais donc, ce sont quand même des chercheurs de l'université de Lancaster et de Pékin, et de l'université de Northwest University of China, donc c'est un truc chinois. Ils ont encore ébranlé quand même la pertinence des CAPTCHA sur les sites web. Donc des CAPTCHA à base de texte, hein, en l'occurrence. C'est parce qu'il y en a encore, apparemment, et sur de très gros sites, comme Baidu, eBay, Google, il y a encore des CAPTCHA à base de texte. Donc c'est fou. Donc les chercheurs ont testé leur algo sur 33 CAPTCHA, et plusieurs appartenaient donc à la liste des 50 plus gros sites internet. Et le résultat, c'est que le CAPTCHA saute en 50 millisecondes en utilisant une carte graphique un peu custom.
C'est rien.
Alors, en plus, l'apprentissage qui requiert en général des millions d'exemples, c'est un peu le point délicat, là, il est largement accéléré par le fait que le système, à partir de quelques centaines d'exemples, peut créer de nouveaux exemples tout seul et se challenger lui-même pour lire les trucs en accumulant de l'expérience au passage. Parce que ça, c'est encore une fois, ce sont des GAN, donc c'est-à-dire que c'est des couples de réseaux. Donc il y en a un qui crée quelque chose et l'autre qui en quelque sorte, l'évalue, quoi, lui donne une note. Ce duo peut effectivement s'améliorer, et ça marche apparemment pas mal sur des CAPTCHA textuels pour le moment, en tout cas.
Ça me fait penser, tu sais, un peu aux deux élèves un peu faillots dans la classe qui sont très bons en maths, qui arrivent à faire les problèmes du prof et qui se challenge eux-mêmes en plus parce qu'ils s'ennuient en cours pour s'en rajouter. Ça me fait un peu ça.
C'est ça, c'est exactement Alpha 0, hein. Il joue avec lui-même en permanence.
C'est exactement ça. Pour se challenger, c'est chouette. Alors un autre truc qui vraiment est bluffant, même si alors c'est pas quelque chose de fondamentalement nouveau, c'est nouveau dans sa qualité, pas tant dans son approche, c'est la génération de visages fictifs. Et ce qui est bien, c'est que ça, c'est très visuel. Hein. Donc, évidemment, vous avez le lien vers l'article sur le site futurisme.com dans les notes de l'émission. Et donc, les algorithmes qui parviennent maintenant à générer des visages, sauf que là, Honnêtement, si on ne sait pas que ce sont des visages qui ont été générés par des intelligences artificielles, et si on a foi en et si on garde la foi dans le journalisme, parce qu'on pourrait très bien se dire que c'est des vraies photos qui nous font passer pour des fausses, eh ben, on n'y voit vraiment que du feu. Les derniers exemples nous montraient des visages qui étaient déjà impressionnants, mais sur lesquels on voyait quand même certains équilibres ou certaines attitudes dans le regard, dans la composition de visage qui pouvaient être un peu bizarres. Là, c'est même plus beau que certains photos qu'on voit passer sur Internet qui sont des vraies photos de vrais gens. C'est très impressionnant,
Oui, bah en
Guillaume, là
4 ans,
encore.
si tu veux, on a fait des progrès complètement foufou, quoi. C'est pas impressionnant, c'est dingue, parce qu'il y a 4 ans, on avait déjà ce genre de truc, effectivement, tu avais des réseaux qui généraient des visages en tout petit, des morceaux en plus, hein, de visages en tout petit, en noir et blanc. Je veux dire, après, on a eu les réseaux qui généraient ces fameux visages de stars, auxquels tu as fait allusion, tu en avais déjà parlé. Mais là, c'est d'une qualité photographique, en fait. C'est absolument indiscernable d'une photo
Impressionnant.
réelle. Alors, les réseaux qui étaient utilisés dans le sujet précédent, hein, donc c'est encore Sagan, donc ils fonctionnent en double, hein, donc effectivement, là, il y en a un qui crée un truc, voilà, en l'occurrence une photo de visage, et l'autre qui l'évalue, et donc c'est comme ça qu'ils apprennent à créer des visages en fonction des visages qu'ils ont déjà vus. Donc là, c'est les recherches de Nvidia. Donc en fait, c'est pas futurisme, c'est Nvidia qu'il faut aller voir et qu'il faut croire. Parce que bon, évidemment, on n'a pas refait les
Ouais.
calculs, mais il y a un article, hein, scientifique, et donc voilà. Il y a aussi une
Ouais.
vidéo. Alors ça, j'en parle après, mais donc en la matière, les réseaux de Nvidia sont capables de créer des visages. Donc cette fois, c'est des visages de Monsieur Tout le Monde. C'est pas des visages de stars. Des visages que vraiment qu'on pourrait croiser dans le métro. Et si on en reparle, vraiment, c'est parce que
Complètement.
le niveau de réalisme a atteint un nouveau palier, quoi. C'est absolument indiscernable. Donc, d'ailleurs, l'image qui fait dans le titre, l'image titre des notes de l'émission, ce sont des portraits de gens qui n'existent pas. Ce sont des images de synthèse, c'est vraiment bluffant. Donc, non seulement on peut générer de nouveaux visages à la volée, mais on peut même les contrôler. On peut contrôler le processus et demander des variations sur le sexe, les cheveux, la peau, les lunettes, avoir des lunettes ou pas, l'âge. On peut créer des gens à la demande, parce que c'est là qu'on voit que c'est effectivement vraiment des visages synthétiques. C'est que dans l'article, il y a aussi une vidéo qui montre comment ça fonctionne. Donc, il faut garder à l'esprit qu'aucun de ces visages, même ceux qui sont utilisés comme référence pour en créer d'autres, ne sont réels. Le cerveau imagine 3 visages et on peut, par exemple, demander d'en créer un quatrième avec, par exemple, l'éclairage de la première, la pose de la troisième, les cheveux de la seconde, etc. Donc le réseau se promène ensuite dans son imagination et en fonction de ce qu'on lui demande. Et les chercheurs donc ont réussi à fabriquer des vidéos et enfin des vidéos, des visages et à les contrôler comme ça. Donc vous verrez, c'est assez extraordinaire. Et donc vous me direz, ben, pourquoi est-ce qu'on peut faire d'autres choses que des visages de gens? Ben oui, évidemment, ils ont essayé sur des chats, des voitures, des chambres à
Forcément.
coucher, et ça marche. C'est fascinant d'ailleurs de voir apparaître une voiture qui n'existe pas comme ça, et en fait, suite de demander de changer la couleur, hein, tu la veux en rouge, ben, aucun problème. Tu demandes en fait, tu donnes une autre image de référence où il y a une voiture rouge, et tu dis que tu veux alors après, c'est l'échelle des changements que tu peux demander, donc tu demandes des changements à petite échelle, ben, c'est les détails à petite échelle qui vont être retranscrits d'une image sur l'autre, et du coup, si tu veux, ben, ce sera la couleur qui va changer, par exemple. Donc là, alors après, ça marche vachement mieux sur les visages que sur les chambres ou les voitures, mais ça, c'est parce que la variabilité des photos de chats ou des photos de chambres à coucher, ben, elle est beaucoup plus grande que celle d'un portrait humain, surtout que c'est des portraits qui sont en plan assez serré. Donc ça veut dire que c'est parfois un peu moins bluffant, mais quand même, on voit apparaître des chambres sorties de rien, quoi, dont tu peux changer la couleur et la disposition à la demande, et c'est vraiment assez incroyable. Après, pour améliorer ça, ben, je suppose que c'est juste une question d'entraînement sur des sujets spécifiques, quoi, donc c'est vraiment, vraiment fou. Et bon, ben,
Une question de données au
oui.
départ, plus tu as de
Oui, ben, tu
données
sais, les...
et moins elle est
Oui,
disparate,
voilà.
quoi.
En fait, les photos de visage qu'on utilise comme ça pour entraîner le réseau, elles sont très très homogènes. C'est des photos de face, de gens, toujours bon. Après, il y a plein de variations, mais c'est quand même vraiment très homogène. Une chambre à coucher, ça peut être vraiment n'importe quoi. Le lit peut être plus ou moins grand, il peut y avoir différents meubles, il peut y avoir différentes dispositions, différents éclairages, différents papiers peints. La variabilité est beaucoup plus grande, c'est beaucoup moins homogène. Ce qui veut dire que le réseau a un petit peu plus de mal à se figurer ce que c'est une chambre à coucher, si tu veux, quand tu lui en demandes d'en créer une, et ben il a plus de liberté, et cette liberté est un petit peu handicapante. Mais évidemment, il y a aussi une question d'entraînement, c'est-à-dire si tu lui donnes plus de trucs, ou des photos qui sont un petit peu plus cadrées, tout simplement, ben ça passe mieux.
Le génie de la préparation des émissions et des enchaînements fait que la rubrique suivante est très naturelle, puisqu'on va s'attarder un petit peu justement à une rubrique visage, faciale, avec notamment la partie reconnaissance. Ça aussi, ça a été un sujet un peu fil rouge toute cette année 2018, Guillaume. On a longtemps, enfin plutôt à plusieurs reprises, parlé de la reconnaissance faciale dans différents pays d'ailleurs, parce qu'assez naturellement, on pense à la Chine, mais on a vu que ce soit en Grande-Bretagne ou aux États-Unis, il y a des choses qui se passent aussi à son niveau. Et justement, là, tu voulais relayer le fait que les tests de reconnaissance faciale se poursuivent à Londres, justement. C'est pas très loin de chez nous, quand même.
En fait, c'est trois petites news sur la reconnaissance faciale qui montrent que ça continue dans la direction à laquelle on s'attendait. Hein. Donc, elles vont en poupe, hein, tout simplement. Là, en Angleterre, on continue les tests à grande échelle, hein, puisque c'est au centre-ville de Londres, donc dans des zones commerciales qui sont vraiment très denses, comme Piccadilly Circus ou Leicester Square, hein, pour ceux qui connaissent. Ce sont des caméras qui scanneront et identifieront tous les passants. Donc, c'est le septième test de ce genre à Londres. Et on peut, alors, pour l'instant, on peut encore refuser de se faire scanner, mais bon, voilà, pour le moment. Aux États-Unis, la reconnaissance faciale fait partie du quotidien, en fait, hein, dans les aéroports, c'est tout le temps. Et même, d'ailleurs, des particuliers, puisqu'il y a Amazon, qui est à travers Ring, qui est donc sa boîte de... Donc Ring, c'est un petit peu flippant comme nom, surtout si on a vu le film, mais c'est en fait, c'est une boîte de sonnettes connectées, tout simplement, qui vient de déposer deux brevets qui permettraient de repérer les personnages chelous dans le voisinage et d'appeler la police directement. Bon, c'est à peine une nouveauté, en fait, hein, puisque Nest, qui fait aussi une sonnerie qui s'appelle Hello, et elle reconnaît tes amis. Donc de là à ce qu'elle reconnaisse aussi tes ennemis, effectivement, ça paraît assez naturel. Et d'ailleurs...
Not friend égale ennemi.
C'est un peu ça. Et d'ailleurs, pour Taylor Swift, c'est même chose faite, hein, puisque la star, d'après les Rolling Stones, a utilisé la reconnaissance faciale l'un de ses derniers concerts pour repérer d'éventuels harceleurs qui seraient déjà connus. Ça a été fait de manière maligne en plus. Hein. Il y avait un stand où on passait des vidéos de Taylor, et il y avait une caméra qui, non seulement faisait de la vidéosurveillance, mais qui faisait aussi de la reconnaissance de visage et interroger une base de données pour dénicher les suspects. Et d'ailleurs, jusqu'aux révélations du journal, personne ne savait qu'il était scanné. Alors, c'est pas encore illégal d'ailleurs, hein, mais bon, être au courant qu'on est scanné, c'est quand même toujours mieux, même s'il va falloir s'y faire, puisque bon, je pense que voilà, le monde semble aller dans ce sens, hein, on va tous finir par devenir des cartes d'identité sur pattes un jour ou l'autre, voilà, pour le meilleur et pour le pire, je suppose.
Ouais, ça va être un package complet et probablement qu'on n'y fera pas attention plus que ça, finalement, une fois que ce sera bien installé partout. C'était d'ailleurs une des réflexions, là encore, de l'épisode de Niptech de fin d'année. Une rubrique très naturelle aussi par rapport à l'intelligence artificielle et par rapport à ces algorithmes, mais qui sont appliqués au monde de la mobilité. Et là, moi, c'est le genre de mouvement que je ne pouvais pas prédire et qu'on n'aurait pas pu voir venir. Tu sais, un petit peu ces mêmes mouvements qui visent à dire que on parlait que l'éducation de demain, l'éducation la plus luxueuse, ce serait pas forcément peut-être l'éducation la plus technologique, mais ce serait peut-être même celle, au contraire, qui arriverait à s'affranchir des influences de la technologie. Et là, ce qui est assez rigolo, c'est que c'est aussi un mouvement que je n'aurais pas pu voir arriver, en tout cas pas aussi vite, digne de films d'anticipation. C'est la révolte des humains sur les machines qui circulent près de chez eux.
Oui, eh ben oui, les voitures autonomes ne réjouissent pas tout le monde, en fait. Hein. Bon, ici, évidemment, en France, ça reste très abstrait comme futur. Mais à Phoenix, c'est déjà dans le quotidien. Les gens, même ceux qui ne font pas partie des quelques personnes inscrites pour utiliser le petit début de service qui vient de s'ouvrir, hein, dont on a déjà parlé la fois dernière, peuvent croiser régulièrement des voitures Waymo, quand même, sur la route. Or, régulièrement, elles se font agresser, elles se font caillasser, des chauffeurs se font menacer au fusil, des voitures leur font barrage.
Pas que par des gilets jaunes, en plus.
Ils portent pas de gilets jaunes, en tout cas, ceux-là. Non, non, effectivement. Donc, c'est ces deux dernières années, il y a quand même eu au moins 21 agressions, la plupart qui sont directement reliées au fait qu'il s'agit d'une voiture autonome, quand même. Donc, certains pensent qu'elles sont dangereuses, tout simplement. D'autres, qu'elles voleront leurs emplois. D'autres encore les prennent pour cible parce qu'elles représentent peut-être aussi le symbole d'une mondialisation technologique triomphante dont ils se sentent exclus. Hein. C'est sûr que... Bon, voilà, ça peut être... alors, je sais pas, c'est difficile à dire, hein, si c'est le début d'un mouvement anti-robot, comme on pourrait le voir dans la science-fiction. On verra bien. On verra bien parce que, de toute façon, toutes les grandes marques, maintenant, hein, ou presque, ont leur division autonome, hein, puisqu'on avait parlé de Cruise pour General Motors, Ford à Argo, et Audi, maintenant, d'ailleurs, c'est aussi doté, hein, de sa filiale qui s'appelle AID, pour Autonomous Intelligent Driving. Et c'est une, voilà, c'est une filiale qui a pour vocation de créer toute la suite logicielle, hein, pour créer des voitures autonomes de niveau 4, parce qu'il y a 5 niveaux d'automatisation. D'ailleurs, je ne sais pas si on en a parlé, peut-être qu'on devrait peut-être les citer.
On n'avait pas détaillé, bah, écoute, non,
ça. Citer.
Ouais, ça serait peut-être intéressant. Bon, on peut s'y
oui,
attarder
bah,
maintenant.
Pourquoi
ouais.
pas, oui, effectivement, il y a 5 niveaux d'automatisation. Le premier, c'est l'assistance. Donc, tout simplement, c'est le véhicule peut réguler la vitesse et rester sur une voie tout seul. Mais c'est tout. C'est vraiment une assistance à la conduite, mais il faut un conducteur humain.
C'est ce qui existe notamment aujourd'hui en certaines fonctions de voiture, notamment avec les fonctions bouchons, là, c'est ça, hein, qui permet de suivre le véhicule de devant à un rythme
oui,
qui va
oui,
bien.
Oui, c'est
le
régulateur de vitesse, ce genre de choses. Oui, voilà, c'est des assistantes
ouais,
à la conduite,
régulateur de
exactement.
vitesse.
Ça, c'est le niveau 1. Le niveau 2, c'est la voiture peut occasionnellement se conduire toute seule dans des conditions idéales et
Ah,
simples.
c'est
Voilà.
peut-être ça
Comme sur une
plutôt.
autoroute,
C'est
par
peut-être plutôt
exemple.
ça, les bouchons
Voilà, là,
automatiques,
voilà,
tout
c'est
ça.
des conditions vraiment très très limitées sur une autoroute. Bon, ben voilà, elle peut rester sur sa voie et conduire, ajuster sa vitesse aux autres voitures, etc. Mais la voiture n'a pas un contrôle total, en fait. La voiture n'a pas le contrôle total et elle n'est pas censée l'avoir, d'ailleurs. C'est vraiment un truc plutôt ponctuel. Ça, c'était le niveau 2. Donc, le niveau 3, par contre, justement, là, la voiture a un contrôle total dans certaines situations et elle est consciente de son environnement. Donc, elle est consciente de la signalisation, des autres véhicules, éventuellement des piétons. Et donc, elle peut se conduire toute seule de manière limitée. Et elle peut aussi.
Il y a un sacré palier entre le 2 et le
Oui,
3,
il y a un
n'empêche.
sacré pas. Déjà, le mode 3, enfin le mode 2, pardon, c'est vrai qu'il faut quand même déjà qu'il y ait des capteurs, des choses un petit peu plus sophistiquées. Dans le niveau 3, il faut qu'il y ait des capteurs et une véritable intelligence qui analyse ce qui se passe autour grâce aux capteurs, quoi. Et la voiture peut se conduire de manière limitée quand même, hein. Donc elle peut demander au conducteur de reprendre le contrôle quand elle gère plus, quand elle sait qu'elle gère plus, qu'il y a un souci ou que. Voilà, mais elle peut quand même se contrôler. Globalement, j'ai l'impression que c'est à peu près le niveau des dernières Tesla. Si les dernières mises à jour de Tesla, c'est à peu près le niveau 3, je pense. Le niveau 4, par contre, c'est le niveau Waymo. Donc, tout simplement, c'est la voiture se conduit complètement seule. Par contre, elle le fait dans une zone spécifique et bien cartographiée, comme un quartier, une zone urbaine limitée. Bon, voilà, là, c'est vraiment Waymo et les taxis autonomes. Tu vois, on a un quartier, on a des cartes très très bien détaillées. On connaît toute la signalisation, etc. La voiture a un lidar, elle map ses environs, et elle peut se conduire d'un point A à un point B de manière 100% autonome. Cela dit, il existe le niveau 5, et personne n'est à ce niveau, hein, puisque ça correspond tout simplement à Kit de K2000. La voiture se conduit toute seule, mais dans toutes les situations. En ville, en piste, en brousse, en campagne, n'importe où. Et en fait, elle n'a pas besoin d'avoir une carte 3D ultra détaillée à part avance. Elle peut, donc, comme un humain, en fait, hein, tout simplement, elle regarde la route, voilà, et puis elle déduit ce qu'il faut faire, et c'est tout. Donc en fait, elle peut se conduire absolument partout, c'est-à-dire à la fois à Marseille, ou sur le Camel Trophy, et elle peut même faire des blagues de Toto aux passagers. Donc voilà, c'est vraiment le niveau que pour l'instant personne vraiment envisage de faire. Parce qu'Audi envisage par exemple de créer des voitures de niveau 4. Voilà, s'il va se reposer sur un lidar haute définition qui s'appelle Luminar, qui est un lidar qui fait des nuages de points en 3D comme ça d'une très très grande précision. Et bon, ils planchent vers une sortie de leur voiture autonome niveau 4 en 2021. Voilà, des robots taxis, encore une fois, un petit peu comme Waymo. Plus tard, peut-être, bon, probablement même des voitures autonomes pour les particuliers aussi.
J'aurais cru que Tesla était à un niveau encore, enfin plus que le niveau 3, comme quoi, tu vois, c'est
Je
intéressant
pense
de
pas.
pouvoir.
Je crois que Tesla, tu peux pas lui
Ouais.
dire, tu peux rentrer dans ta Tesla, lui dire amène-moi au boulot et rêver. Je pense pas. Je pense pas qu'ils sont encore au niveau 4. Peut-être une mise à jour, hein, mais pour l'instant, je pense pas. Il faut savoir que Tesla, ils ont enfin, leur credo, c'est on peut tout faire avec des caméras. Donc ils sont 100% optiques. Alors que la plupart des autres, Waymo en tête d'ailleurs, utilisent des lidars, c'est-à-dire qu'ils sont avec des capteurs 3D. On a un capteur au-dessus de la voiture. Ce capteur, il va créer une carte en 3 dimensions, un nuage de points en 3 dimensions de ce qui se passe autour de la voiture, le jour comme de nuit, hein, et c'est un truc qui est assez dense et qui fait plusieurs dizaines de fois par seconde. Donc c'est pas exactement les mêmes trucs. Évidemment, ça demande un équipement qui est supplémentaire et ça demande un équipement qui est en général encore plus cher que des caméras, alors qu'évidemment dans les Tesla il y a des caméras, donc forcément ça coûte pas grand-chose, donc elles sont déjà intégrées dans les voitures, et c'est pour ça que de mise à jour en mise à jour, en gardant le même set de capteurs, ben, les Tesla arrivent à faire des choses de plus en plus sophistiquées. Mais par contre, ce serait quand même très fort, de mon point de vue, hein, de faire une niveau 4 uniquement avec des caméras. Mais bon, peut-être.
Il y a un débat hein, d'ailleurs là-dessus sur le choix technologique effectivement que fait Tesla, qui fait débat dans l'univers de la conduite autonome. C'est un sujet toujours hyper intéressant que là aussi on voit venir, peut-être pas de manière aussi fulgurante cette année, mais de manière constante, ça c'est clair. Et c'est un sujet qui est toujours aussi passionnant. C'est compliqué d'ailleurs de relier toutes les news parce que je trouve que les marques ont toutes des initiatives dans ce domaine-là. Et moi j'avoue que dans ma veille, j'ai tendance un peu à passer toutes ces initiatives. Parce que il y en a tellement et c'est tellement foisonnant et bon les choses sont encore pas complètement très concrètes pour le grand public donc c'est quelque chose à suivre de toute façon et qu'on continuera de relayer surtout au fur et à mesure que le sujet va avancer dans Tech Café. Une initiative aussi pour clore cette partie sur la mobilité avec Hyundai. Alors là il y a un mix de technologies, c'est Hyundai et les reconnaissances digitales. De quoi
Oui,
s'agit-il,
bah c'est quand
Guillaume?
même plus proche de nous. Hein. Hyundai innove quand même avec c'est une première à ma connaissance, puisque c'est une voiture en reconnaissance biométrique. Donc c'est la poignée de la portière qui lit l'empreinte de ta main, comme ton téléphone, enfin comme mon téléphone, puisque le tien, il a que Face ID. Et donc il lit comme le téléphone lit l'empreinte de ton doigt. Ben là c'est toute la main en fait quand tu la poses sur la poignée de ta portière. Et c'est voilà, c'est le Santa Fe SUV de Hyundai qui va se souvenir de la configuration des sièges et des rétroviseurs, d'ailleurs une fois qu'il t'aura, comme ton téléphone en fait, hein, comme une fois qu'il t'aura reconnu. Alors pour l'anecdote, la voiture est aussi équipée d'un détecteur de présence sur les sièges arrière, histoire que vous n'oubliez pas vos enfants sur le parking trop souvent. Donc ça, voilà, bon alors le problème c'est pour l'instant ces fonctionnalités seront limitées à la Chine. Mais bon, ça fait rêver quand même, non? Une voiture qui s'ouvre toute seule comme ça en reconnaissant la paume de ta main.
Ça c'est clair. Moi je trouverais ça beaucoup plus cool que simplement les clés. Et je sais qu'il y a il y a des petites technos qui sont toutes bêtes, hein, mais qui sont sympas. Le fait de que la voiture se verrouille simplement quand tu t'en éloignes et qu'elle se déverrouille quand tu t'en approches. C'est vrai que ça déjà c'est cool, mais ça continue à dépendre d'un objet. Et puis il y a toujours des situations bien particulières où ça peut poser allez, des petits soucis. J'avoue que la reconnaissance digitale c'est top. En attendant, peut-être mieux la reconnaissance faciale, va savoir peut-être demain. Tu parlais d'Apple, justement, où il y a un brevet, hein, je le mentionne très très rapidement au passage, un brevet qui a été aperçu, où Apple a déposé le brevet d'iPhone qu'on peut à la fois déverrouiller avec Face ID, mais qu'on peut aussi peut-être déverrouiller avec Touch ID sur l'écran. Donc il ne lâche pas le morceau, au moins sur le plan du brevet, et peut-être que l'histoire n'est pas terminée sur les méthodes de déverrouillage des smartphones. On enchaîne avec une autre rubrique qui va du coup s'éloigner de l'intelligence artificielle, mais qui va aborder un sujet qu'on aime bien, c'est celui des réseaux, des outils qu'on peut utiliser au quotidien. Avec, ben voilà, hein, c'était la nouvelle semaine, donc la nouvelle semaine de fail de Facebook. Là aussi, je crois que dans les tendances 2018, dont on a parlé aussi dans Niptech et dont on pourrait continuer à parler, ça ne nous a pas lâchés. On a pensé que c'était un début d'année difficile pour Facebook avec Cambridge Analytica. Et de fait, ben, ça a été surtout le début de la fin, hein, puisque, encore une fois, semaine après semaine, on a des fails, des excuses, des auditions. Et ben, là, on continue, puisqu'il y a la nouvelle dose qui est arrivée, Guillaume. Alors, c'est quoi le dernier épisode du feuilleton Fail
Alors,
Facebook?
cette semaine, il y a deux trucs. Non, enfin, non, mais il y a trois trucs. Bon, enfin, bref, c'est encore une mauvaise semaine, on va dire, pour Facebook, hein, puisque d'une part, on a encore une bombe qui vient du New York Times, et parallèlement, les rapports remis au Sénat américain qui sont pas très flatteurs pour Facebook, hein, entre autres. Donc voilà. Donc, on va commencer par les révélations du Times. Hein. Le journal approfondit en fait son enquête sur les contrats privilégiés qu'il avait avec les grosses boîtes, et qu'on avait déjà évoqué il y a quelques temps, même si c'est un petit peu différent, parce que là, en fait, il ne faisait pas forcément payer, c'était plutôt voilà, un échange de bons procédés. Donc il a mis la main sur de nombreux documents internes et il aurait interrogé 50 ex-employés de Facebook et de ses partenaires commerciaux, avec lesquels, apprend-on, bah, il aurait partagé beaucoup de données, et genre beaucoup en fait. Pour résumer très simplement, bah, les partenaires avaient, via des ententes, accès à un pouvoir comparable à celui de Facebook lui-même, même partiellement en tout cas, mais disons un pouvoir sur certaines catégories de données qui étaient comparables à celui d'Amazon lui-même. Et au total, c'est quand même 150 compagnies, dont Apple, Amazon, Microsoft, Spotify, Netflix, et donc bien d'autres, hein, qui auraient continué à avoir accès aux données des utilisateurs, sans leur consentement explicite en fait, puisque voilà, et c'est, alors, par exemple, Apple avait accès aux contacts et au calendrier des utilisateurs Facebook, même si ces derniers avaient désactivé le partage de données. Hein, et ça en vertu d'un accord qui existe encore aujourd'hui et dont Apple nie connaître l'existence. Ça, c'est assez amusant. Amazon, d'ailleurs, avait les mêmes privilèges. Bon, lui, par contre, il reconnaît les avoir utilisés, mais de manière appropriée. Selon lui, hein, en tout cas. Bon, peut-être pour lutter contre les commentaires frauduleux, on n'en sait pas vraiment plus. Bing aussi avait accès aux noms et aux informations de profil d'un utilisateur et de ses amis. Microsoft assure avoir éliminé les données de Facebook et assure qu'il s'agissait uniquement des données publiques. Alors là, après, par contre, il y a carrément Spotify, Netflix et la Banque Royale du Canada qui avaient la possibilité de lire et même d'éliminer des messages Facebook privés. Alors bon, alors après, souvent, c'est pour des raisons d'intégration d'applications.
Ouais, c'est quand tu intègres les messages, les partages
exactement,
des messages
c'est
dans
pour
les
intégrer
applications.
Facebook mais quand même. Dans les applications ou c'est pour personnaliser dans le cas de Bing, par exemple. Le truc, c'est que les deals outrepassent quand même les limitations qui ont été imposées publiquement au commun des développeurs. Et en plus, ça se fait le plus souvent dans la plus parfaite opacité vis-à-vis des intéressés, quoi. Ça, c'est un petit peu le plus gros souci. D'autant plus que les deals ont pu durer longtemps, voire se poursuivre. Hein. Bing a eu accès aux données jusqu'en 2017, par exemple. Et bon, après, pour Spotify et compagnie, c'est presque de la négligence, parce que, je veux dire, même si ça s'est pas fait, c'est vrai que Spotify, par exemple, pouvait se plugger directement dans la fenêtre de chat Facebook et envoyer une chanson à un ami. Le truc, c'est que l'accès était très large, si large qu'en pratique, Spotify avait complètement la main sur tes chats. Donc même si ils l'ont pas vraiment utilisé, c'est trop de pouvoir donné de manière complètement opaque, hein, je pense, à un tiers. Il y avait des acteurs comme Yahoo et Yandex qui auraient eu aussi des accès privilégiés, et ce bien après que les API furent théoriquement limitées. Donc voilà, Yahoo avait... Donc jusqu'à cet été, hein, ils pouvaient voir les flux des utilisateurs et de leurs amis. Yandex a dit ignorer qu'il avait un accès privilégié. Étonnant, là encore, mais bon. Netflix, lui, reconnaît qu'il a tenté une intégration poussée avec Facebook, hein, à laquelle il a renoncé en 2015, ce qui confirme les accès préférentiels aux données, mais il assure qu'il les a jamais utilisés, il a jamais utilisé son accès sur les messages. Bon, voilà.
Il y a eu un cas de conscience.
En tout cas, Marc a affirmé à la FTC en 2011 que les utilisateurs avaient tout pouvoir et tout maîtriser sur leurs données, sauf qu'en fait, ça a l'air que pas complètement, malheureusement, encore une fois. Donc c'est pas très très glorieux. Bon, je sais pas si t'avais vu passer ça.
Oui, bien, c'était compliqué de passer à côté quand on fait une veille tech de toute façon. Et c'est déroutant. Après, je ne peux plus m'empêcher de voir ces fails successifs comme autant d'étapes qui permettent peut-être au grand public de prendre conscience. Parce qu'en fait, encore une fois, tu sais, on parlait avec l'affaire Cambridge Analytica, oh là là, il va y avoir des mouvements, les gens vont quitter Facebook. Bon, en fait, pas du tout. Et on voit même que scandale après scandale, ça ne change pas grand-chose. Alors, peut-être qu'on pourrait aussi dire que s'il n'y avait pas ces scandales, il serait dans une progression fulgurante et que ce n'est plus le cas, du coup, à cause de ces scandales. J'ai tendance à penser quand même qu'il y a une forme de prise de conscience de la part des gens en général quand il y a une multiplicité de scandales. C'est-à-dire qu'un scandale, ça ne va sans doute pas beaucoup jouer. Par contre, avoir passé l'année à être exposé à des scandales de Facebook, je pense que le grand public commence vraiment à s'être fait une définitive opinion et ça va très logiquement fortement influencer les usages, au moins dans l'année à venir. Ça, il y a fort à parier là-dessus. On continue aussi avec l'univers de Facebook, avec les fails, parce qu'on raisonne assez rapidement avec les abus publicitaires qu'il peut y avoir sur Facebook, et notamment l'ingérence russe qui peut influencer des élections présidentielles, comme on a pu en voir passer. Là encore, on continue à parler de ces usages sur Facebook.
Oui, on continue avec deux rapports sur l'ingérence russe sur les réseaux sociaux, cette fois au sens plus large, donc Facebook bien sûr, mais aussi Instagram, Twitter et YouTube, voilà, principalement. Hein. Et donc c'est le Sénat américain, plus précisément sa division chargée du renseignement qui s'appelle le US Senate Intelligence Committee qui les a commandités et dont on a eu connaissance cette semaine. Hein. Alors le premier a été produit par l'université d'Oxford et Graphica et le second par New Knowledge. Donc ensemble, ils détaillent comment l'IRA, donc l'Internet Research Agency, dont on parle souvent ici, hein, donc c'est une entreprise russe, qui est donc... alors le mec qui est à la tête de ça, c'est Prigogine, qui est apparemment assez proche du Kremlin, comment donc il s'est immiscé dans la vie publique américaine depuis 2013. Parce que c'est ça qui est marrant, c'est qu'en fait, c'est beaucoup plus ancien que ce qu'on imaginait. Entre 2013 et 2017, l'IRA a en effet posté en masse sur Twitter. Dès 2013, des centaines de comptes sont apparus sur Facebook et Instagram et ont touché plus de 30 millions de personnes avant et, découvre-t-on, aussi après l'élection de 2016. En 2017, leur action n'a pas cessé, au contraire. En fait, c'est vraiment une stratégie à long terme. Le rapport de New Knowledge, d'ailleurs, nous apprend que la campagne était presque plus efficace sur Instagram que sur Facebook. Les propagandistes déguisés ont eu plus de 187 millions d'interactions avec les utilisateurs sur Instagram, contre seulement 77 millions sur Facebook et 73 millions sur Twitter. Alors, c'est des stratégies qui sont assez connues, hein, mais les rapports permettent de mettre en lumière, en gros, enfin, leur ampleur, si tu veux, et leur aspect coordonné, surtout. Alors déjà, la conclusion est sans appel. Toutes ces campagnes se sont faites en faveur de Donald Trump. Voilà, c'est clair et c'est net. Que ce soit en diabolisant Hillary Clinton, en décourageant les Blacks de voter, ou en leur donnant de fausses indications, en incitant les partisans de Bernie Sanders de s'abstenir ou de voter pour des candidats anecdotiques, tu vois, en inondant les conservateurs de postes anti-immigration, prétendant que les musulmans allaient introduire la charia aux États-Unis, avec l'aide des démocrates, évidemment, en appelant l'extrême droite à aller au clash, bon, voilà, etc., etc. Alors, la stratégie était multiplateforme, hein. Tu te rends compte qu'ils ont même posté sur Google+. Bon, c'est exhaustif, quand même. Hein.
Ils auront vraiment tout tenté.
Exactement, c'est ça, vraiment tout tenté. Il faut dire que l'IRA n'en est pas à son coup d'essai, en fait, hein, puisque c'est logique, finalement. Elle s'est faite la main dans son propre pays. C'est en Russie que l'IRA a commencé, dès 2009, à créer de faux comptes Twitter pour manipuler l'opinion. Donc l'IRA a une vraie galaxie de comptes, de sites qui sont tous cohérents, qui se répondent, pour être le plus efficace possible. Par exemple, la communauté afro-américaine était largement visée. Alors c'est pas bizarre, hein, sachant qu'ils votent à 80% démocrates. Et donc c'est à tel point d'ailleurs que la NAACP, qui est la National Association for the Advancement of Colored People,
tu le fais bien. Quand même.
Merci. A lancé une campagne qui s'appelle c'est hashtag logout Facebook. Et d'ailleurs elle refuse désormais tout argent de la part de Facebook. Et pour recruter les Américains qui pourraient poster pour eux, on peut dire que l'IRA ne manque pas non plus d'imagination. Puisque, d'après les rapports, elle aurait créé de faux sites de soutien pour la communauté LGBT et un faux site chrétien de lutte contre la masturbation, avec des hotlines. Alors, il y a un slogan qui m'a particulièrement plu. C'est « You can't hold your hands with God when you're masturbating ». Donc, on dirait vraiment une citation qui sortit tout droit de South Park. Hein. Donc, c'est, alors, une traduction rapide. Hein.
On essaye de la traduire.
Tu ne peux pas toucher les mains de Dieu quand tu te masturbes. Je te dis, c'est South Park. Je me demande avec quelle malice les Russes ont écrit ça, mais ils ont dû bien se marrer quand même.
Ouais, il y a des phases de brainstorming, à mon avis. Tu sais, c'est le matin, ils se lâchent, et puis c'est en fin de journée, il y en a un qui est validé pour être publié. Celui-ci a bien fonctionné.
Et le but, c'était quoi? Le but, c'était de constituer des dossiers sur les gens et leurs petits secrets, probablement pour les faire chanter par la suite. Alors, on ne sait pas si cette stratégie est allée au bout de son propos, néanmoins, on sait que ces trucs ont existé, et ça montre quand même la sophistication de la campagne. Le dernier élément intéressant dans cette affaire, en fait, c'est la très mauvaise volonté avec laquelle les acteurs du web ont participé. Tous, que ce soit Facebook, Google ou Twitter, ont traîné les pieds, fourni des données partielles ou alors très difficilement exploitables aux chercheurs. Alors, la palme à Google, par exemple, qui a fourni des fichiers PDF et des images. Voilà, ça, c'est très facile à exploiter de manière automatique. Donc, merci bien. Et apparemment, ils sont tous parfaitement conscients hein, du fait qu'ils sont merdés dans les grandes largeurs. Et donc, on a l'impression qu'elles font tout pour minimiser, pour ralentir les enquêtes, voire brouiller les pistes, et surtout pour compliquer la vie des chercheurs qui finiront quand même de toute façon par révéler au grand jour l'étendue énorme de leur négligence dans la matière. Bon. Ouais, vas-y.
Non, il n'y a pas grand-chose à en redire, de toute façon, hein, mais c'est vrai que l'ampleur, en termes de temps, le fait de remonter à aussi loin les premières initiatives, ça c'est la nouvelle, parce que jusque-là, on avait en tête le fait que c'était quelque chose qui était arrivé un peu en amont de l'élection présidentielle américaine, voire peut-être un peu avant, mais pas à remonter aussi loin. Donc c'est une preuve de savoir-faire, tu sais, c'est un peu comme les artisans, c'est depuis 2013, nous manipulons les populations et nous diffusons des informations en vue de manipuler les résultats électoraux.
Ah bah, s'il y a un pays qui veut les engager, franchement, ils peuvent, hein, c'est des bons, franchement, ils sont compétents.
Ils ont démontré leur performance, voilà. Et je ne voudrais pas trop qu'on aille quand même sur ces terrains-là, parce qu'on va nous taxer d'être de sales gauchos. Tu sais, Guillaume, qu'on a parfois des réactions de cet ordre-là. Si c'est on est trop de
Écoute, assumons. De toute façon, toujours dans le même thème, il y a encore sur Facebook. Cette fois, c'est aux fact-checkers, donc les fact-checkers partenaires de Facebook, donc ceux qui, tu sais bien, sont là pour, donc c'est souvent des journalistes hein, ou des gens qui sont spécialisés là-dedans, dans le debunking, c'est-à-dire, voilà, c'est eux, ils regardent, ils épluche ce qui paraît sur Facebook, et donc ils disent oui, ça c'est vrai, ça c'est pas vrai, ça c'est de la fake news, ça non, etc.
En sourçant les éléments de préférence, etc. Pour qu'on puisse aller recouper
ce qu'ils disent. Parmi eux, par exemple, il y a Snopes qui, donc aux États-Unis, fait ce genre de boulot. Et donc, eux, ils se sont exprimés effectivement sur Facebook. Apparemment, ils en ont gros sur la patate. C'est dans une interview au Guardian que Brooke Binkowski, qui est ancienne rédactrice en chef de Snopes, donc un site hein, qui annonce donc clairement. Donc elle annonce donc clairement Alors c'est modulo, la tradition un petit peu approximative de ma part, hein. Elle dit tout simplement, Facebook s'en balance, ils ne prennent rien au sérieux, ce qui les intéresse c'est d'améliorer leur image, ils nous ont utilisé pour la crise de relations publiques. Bon, voilà. Ouais, ça pose des trucs. C'est pas la première fois que des fact-checkers font part d'une certaine déception vis-à-vis des résultats que leur travail produit sur Facebook, même si depuis 2016, hein, Facebook s'est quand même allié à 40 agences de presse, les résultats sont pas flagrants. Facebook est très opaque.
Non, on n'a pas vu une grosse différence.
Ouais, en plus, Facebook est très opaque sur le sujet. Ils partagent presque pas de données avec eux. PolitiFact, par exemple, a jamais reçu aucune donnée sur les résultats de ce qu'ils faisaient, de leur travail. Donc, il y a certains qui sont relativement satisfaits. Puis bon, faut pas oublier que Facebook paye. Donc, après tout, c'est toujours une rentrée supplémentaire appréciable, hein, par les temps qui courent, surtout dans la presse. Et puis, il y a d'autres qui sont déçus, voire en colère. Surtout après les révélations du Times, hein, concernant les contrats entre Facebook et Definers, et en particulier l'affaire Soros, comme elle avait expliqué, hein, Facebook, via Definers, faisait exactement ce que les fact-checkers étaient payés pour combattre. Donc pour beaucoup, bah, carrément, ça a été un carton rouge. Pour moi aussi d'ailleurs, hein, j'avais dit à quel point je trouvais vraiment qu'ils prenaient les enfants du bien pour des canards sauvages. Donc Binkowski, elle est partie, de Snopes pour fonder sa propre boîte, une qui travaille pas avec Facebook, et elle est partie suite à l'inaction de Facebook face aux alertes qu'elle avait données sur ce qui s'est passé au Myanmar lors de la crise des Rohingyas. Il y a une collègue, Kim Lapria, qui dit en substance à peu près la même chose, elle est d'ailleurs contre la rémunération de Facebook, parce que le debunking ne devrait pas s'exposer au conflit d'intérêts. D'ailleurs, Binkowski a indiqué que dans au moins un cas, Facebook a explicitement demandé de donner la priorité à un debunking concernant un de ses annonceurs. Donc bon, voilà, c'est effectivement, pour couronner le tout, c'est évidemment c'est un boulot très ingrat, tu t'imagines. Les fact-checkers reçoivent toute la haine, toute la merde de ceux qui débunkent. Et ça arrange particulièrement Facebook, parce que évidemment la haine, elle va vers un tiers, et ça, c'est parfait pour eux. D'ailleurs, pour la Capria, ils considèrent les fact-checkers comme des dommages collatéraux. La plupart d'entre eux pensent désormais d'ailleurs que ça vaut plus vraiment le coup. C'est effectivement, on peut les comprendre.
Ouais, c'est un peu peine perdue. Et puis par-dessus toutes ces news autour de Facebook, ben on peut pas échapper au bug de la semaine. Le dernier en date, de quoi s'agit-il cette fois-ci avec Facebook?
C'est vrai qu'après tout ça, c'est presque une anecdote, mais Facebook a découvert cette semaine un bug sur son API de gestion de photos.
Ça s'arrêtera jamais.
Et c'est un bug qui aura pu affecter 1500 applications et 6,8 millions de personnes. Voilà, alors c'est des photos privées, hein, qui pouvaient être vues par tout le monde, enfin par les développeurs qui auraient voulu le faire. Ça a duré 12 jours en septembre dernier. Bon voilà, Facebook est désolé. Donc décidément, 2018 aura été une année incroyable pour lui. Il aura pris cher jusqu'au bout. Enfin, pris cher, même pas, puisque la chanteuse a annoncé le 18 décembre qu'elle allait quitter Facebook et Google. Elle en a dit sur Twitter.
Il fallait que tu le places, effectivement. Bah écoute, ça nous donne un petit peu le pouls de Facebook, qui se porte quand même toujours bien, hein, financièrement, etc. Mais jusqu'à quand? Et à partir de quand est-ce qu'on va voir les effets de toute cette actualité autour de Facebook s'appliquer dans les comportements des gens?
Tu me demandais tout à l'heure, j'ai un petit peu botté en touche sur ce que j'aimerais voir ou sur les tendances de l'année prochaine. Moi, ce que j'aimerais voir, c'est pas forcément quelque chose que je pense voir, mais c'est quelque chose que j'aimerais voir, c'est une amende honorable des réseaux sociaux, quoi. Voilà, c'est une sorte de changement un petit peu d'attitude des réseaux sociaux, peut-être aussi un changement d'attitude des gens qui l'utilisent, voilà, plus conscient effectivement du fait qu'il peut y avoir des dérives et qu'il y en a eu et qu'il y en aura encore si ça continue comme ça. Et donc voilà, moi ce que j'aimerais bien, c'est un changement en profondeur dans les réseaux sociaux, dans Facebook, dans Google, qui peut venir d'une initiative institutionnelle, aux États-Unis en particulier, puisque pour l'instant, les États-Unis ont été très, 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 très frileux en ce qui concerne la régulation des très gros du web. Avec le nouveau rapport, avec les scandales à répétition, ce serait bien que peut-être, effectivement, il y ait des efforts un petit peu des deux côtés pour que les réseaux sociaux deviennent un peu moins dangereux, tout simplement. Parce que pour l'instant, on a vu qu'ils sont, donc ils peuvent être dangereux.
Quel acte pourrait poser un Facebook en 2019 qui serait, de ton point de vue, une marque forte d'amende honorable et d'évolution? Quelle action on pourrait s'attendre de la part d'une société comme Facebook?
Une société comme Facebook, elle pourrait déjà faire ce qu'elle dit qu'elle fait, mais sérieusement. C'est-à-dire vraiment faire faire attention aux fake news, etc. Moi, je pense que Facebook pourrait simplement arrêter de distribuer de la news, pourrait interdire, par exemple, les publicités politiques, à contenu politique. Tout simplement, elle pourrait faire de la pub pour autre chose, hein, bien sûr, mais elle pourrait juste arrêter de faire de la pub pour la politique. Ce serait quelque chose de très fort et ça serait...
C'est compliqué hein, d'encadrer ça. Qu'est-ce qui est politique, qu'est-ce qui n'est pas politique ? C'est bête hein, comme question, mais à partir de quel moment un enjeu sociétal est politique et ne l'est plus ? Enfin, tu vois, j'ai du mal à définir quels seraient les critères qui permettraient de dire que quelque chose est politique et pas politique. Finalement, nous, ce qu'on fait dans Tech Café sur certains sujets, qu'on le veuille ou non, il y a une composante politique. Ça ne veut pas forcément dire qu'on n'essaye pas de respecter une neutralité d'orientation peut-être un peu caricaturale, mais droite-gauche.
On peut déjà commencer par ne pas faire de publicité pour les élus ou les candidats. Ça sera déjà quelque chose, tu vois. Je veux dire, là, le problème politique de Facebook, il pourrait être supprimé si on arrêtait de faire de la pub de nature politique. Ce serait un gros manque à gagner, mais ce serait aussi une preuve de bonne foi, quelque part.
Je ne sais pas quelle est la part, d'ailleurs, de leurs revenus sur les publicités politiques, dans leur part complète de revenus publicitaires. Tu vois, je sais pas, j'aurais pas pensé que c'était le premier...
Donc, pour l'instant, si tu veux, tout ce qu'on a vu cette année, c'est que Facebook était... très attaché à faire croître ses bénéfices, sa base d'utilisateurs. Bon, ça, on a bien compris. Bon, voilà, on s'y attendait un petit peu. Maintenant, étant donné qu'ils ont quelque part un rôle qui est plus important, plus large que ça, un rôle qui est social, sociétal, politique, qui a des implications vraiment dans la vie réelle, dans la politique d'un pays, à des échelles énormes, il faut qu'ils prennent conscience de ça, qu'ils prennent des décisions qui soient bonnes, non pas pour eux, mais pour le monde, à l'inverse de ce qu'ils ont toujours fait jusqu'ici.
Ouais, c'est ma seule réserve, mais ça ne veut pas dire qu'on ne doit pas bosser sur le sujet. Hein. Ma seule réserve, ce serait encore une fois de définir ce qui serait, entre guillemets, acceptable ou pas pour un changement d'orientation de la part de Facebook et de prise de conscience telle que tu le décris. Mais je comprends ce que tu veux dire et je te rejoins dans le fait que ce serait chouette, mais je te rejoins aussi dans le fait que c'est peu probable qu'on le voit venir.
Je ne prétends pas non plus avoir des solutions toutes faites pour... évidemment, hein, sûr, c'est un projet et un truc qui est extrêmement compliqué. Mais ce serait bien que... Oui, voilà, que Facebook renonce à une partie de ses bénéfices, de son chiffre d'affaires, pour juste le bien public.
Écoute, on verra s'ils ont cette sagesse. Peut-être ce sera l'âge de l'année de la maturité. On verra. En attendant, il y a un constat qui est fait. C'est l'effet du temps d'écran passé par les enfants sur leur cerveau. Tu vas encore nous faire flipper, Guillaume.
Non, pas tant ça, en fait. Hein. C'est vrai que c'est une question récurrente. Hein. Les écrans sont-ils mauvais pour les enfants ? Bon.
Oui. Il n'y a qu'à voir. Mes enfants, quand ils regardent les dessins animés, ils sont énervés après.
Bah écoute, ce qui est marrant, si tu veux, c'est que les parents qui se demandent ça ont pour la plupart passé leur enfance devant la télé. Bon.
Mais c'est vrai.
Ça n'empêche que c'est quand même une vraie question.
Bien pire que mes enfants.
Non, mais on a tous passé notre enfance devant la télé, les dessins animés, les séries, etc. Donc bon.
Des trucs super violents, style Ken le survivant et compagnie.
Ouais, ou.
Et Dragon Ball. Qui n'a pas vu la violence de Dragon Ball ? Pardon, excuse-moi, je te coupe.
C'est une petite nature. Bon, enfin bon, bref, toujours est-il que c'est quand même une vraie question qu'on peut se poser. Et d'ailleurs, l'Institut National pour la Santé américaine s'est donné les moyens d'y répondre, en tout cas d'essayer d'y répondre, puisqu'elle s'est quand même dotée de 300 millions de dollars pour suivre 11 800 enfants depuis 2013. C'est l'étude ABCD pour Adolescent Brain Cognitive Development. Merci Michel. Sigle, on le salue. Donc ce sont des résultats qui sont très préliminaires et qui ont été présentés en très très petite partie dans une émission de télé qui s'appelle 60 minutes et qui a fait beaucoup parler. Bon, le résultat, apparemment, c'est beaucoup de temps passé devant un écran, c'est associé à de moindres scores à certains tests et à un amincissement du cortex. Bon, le problème, c'est qu'en fait, c'est naturel chez un préado d'avoir ce genre de recablage en cours. C'est à l'adolescence hein, que le cerveau change le plus. Et en fait, on ne sait pas vraiment si l'amincissement cortical observé va rester ou même s'il a un impact significatif. D'ailleurs, pour le moment, l'étude montre que c'est même pas systématique. Et en plus, le temps d'écran n'est pas mesuré de manière indépendante. C'est les gamins qui disent combien de temps ils ont passé devant l'écran. Donc ça limite déjà un petit peu la précision des mesures. Donc on va dire, pour l'instant, on va dire pas de panique, hein. L'étude ABCD, d'ailleurs, elle s'intéresse à plein d'autres choses que le temps d'écran. Le temps d'écran, c'est une petite composante de cette étude, hein, en fait, où il y a plein d'autres choses, plein d'autres facteurs qui est censé donc influer sur sur le ciboulot des jeunes. Donc globalement, pour l'instant, je dirais vraiment pas de panique. Je sais que voilà, on est très attentif à ce genre de sujet. Je suis sûr que Guillaume, tu es très attentif à ce genre de sujet. Voilà, pour l'instant, il n'y a pas de consensus que passer du temps devant un écran rend con. Évidemment, après, il y a toujours le bon sens, hein, que passer tout son temps devant un écran, c'est peut-être pas complètement une bonne idée. Mais voilà, évidemment, il y a un monde entre les deux.
Et puis il y a aussi la nature de ce qu'on regarde. Par exemple, je pense vraiment que de regarder quelques épisodes en boucle de Swan et Neo rend profondément débile, étude ou pas étude à l'appui, j'en suis absolument convaincu. Je pense qu'en 2019, on fera hein, de toute façon au moins un épisode. J'ai en tête le fait qu'on puisse faire un épisode sur la technologie prise sous le prisme justement des enfants, des usages. Qu'est-ce qu'on doit autoriser? Est-ce qu'on peut dire quoi autoriser? Qu'est-ce qu'il faut limiter? Et comment accompagner? Je pense que ça, ce sera un sujet
L'émission
intéressant.
Des darons.
J'ai quelques contacts qui pourraient...
L'émission des darons.
De quoi?
Des darons.
Des Ah, des darons, j'avais pas compris, je comprenais pas pourquoi tu disais des barons. Oui, l'émission des darons, absolument. Merci Guillaume, bien joué, on a déjà le titre de l'émission. La semaine vue avec la marque Apple, ces quatre petites news que tu nous as collectées. La première, c'est le seul reliquat de réseau social qui avait réussi à sortir Apple. Ferme ses portes.
Oui, Apple Music Connect ferme. Voilà, je ne savais pas que ça existait. Ça avait pour but de mettre en relation les artistes et les auditeurs, pourquoi pas. Bon, apparemment, les artistes n'ont jamais été très présents, donc c'est mort. Voilà, désolé, pas trop, enfin, je ne sais pas.
C'était une espèce d'Instagram pour artistes qui était intégré à Apple Music. Et honnêtement, je me suis toujours demandé qui pouvait aller regarder ces contenus. Et je me suis toujours demandé quelle était la motivation des artistes à publier là-dessus. Parce que franchement, j'ose pas imaginer qu'on passe beaucoup de temps. Mais peut-être que je me trompe hein, en même temps.
Oui, on a parlé la semaine dernière, Qualcomm a obtenu d'une cour chinoise l'interdiction des iPhones dans le pays suite à une prétendue violation de brevets logiciels. Résultat, Apple fait une grosse mise à jour pour les Chinois afin de modifier les fonctions en question hein, et de conserver donc son marché. Ça concerne les machines qui sont antérieures aux iPhone XS pour le moment, parce que ça pourrait ne pas durer, étant donné que Qualcomm poursuit maintenant aussi ces téléphones-là, et pour exactement les mêmes raisons hein, du reste. En fait, Qualcomm insiste sur le fait que le jugement ne comporte pas de clause sur le système d'exploitation, hein, donc ça veut dire, on verra, pour l'instant, je ne sais pas du tout, parce que, comme on avait dit avec... Donc la fois dernière avec Cassim, c'est un brevet qui est voilà, vague sur des trucs que tout le monde utilise plus ou moins, donc c'est vraiment assez complexe. Il y a une certaine part d'arbitraire, je pense, dans les décisions qui sont prises, que oui ou non ça correspond à une violation de brevet. Donc on verra si la mise à jour d'Apple suffit à le sauver. Voilà, c'est pas sûr, Qualcomm est hargneux, il est remonté comme un couc suisse en ce moment, donc je sais pas trop ce que ça va donner tout ça.
Et puis un petit mot sur Cydia aussi. Alors pour ceux qui ne connaîtraient pas Cydia, c'est le seul store alternatif à l'App Store sur iOS. Il fallait pour ça jailbreaker son iPhone pour accéder à Cydia, cette plateforme qui n'est pas vraiment appréciée hein, d'Apple, mais sur laquelle on pouvait acheter des applications. Là, il y a du nouveau qui montre que Cydia ne remporte plus forcément une adhésion aussi grande qu'avant, Guillaume.
Ouais, c'est une page qui se tourne, ou qui est en train de se tourner en tout cas, puisque Cydia, donc c'est vrai que c'est un magasin d'appli pour iPhone jailbreaké, donc il doit y en avoir encore quelques-uns, va arrêter la vente de logiciels. C'est un problème technique avec PayPal apparemment qui rend la chose impossible, mais bon, Jay Freeman, qui maintient Cydia, a révélé qu'il en avait un peu marre, honnêtement, et qu'il avait hésité à arrêter complètement le store. Donc en fait, on peut se demander si Cydia passera 2019. Freeman va bientôt faire part de ses décisions sur Reddit, donc on vous tiendra au courant, si jamais vous utilisez encore ce magasin.
Est-ce que tu as vu l'info sur le widget news dans iOS d'aujourd'hui? Il y a un petit gadget dans le fil de notification sur iPhone qui est news, qui est très utilisé, hein, qui relaye donc des actualités qui font l'objet d'une évaluation sans doute par un algorithme, mais peut-être aussi par des humains. Et c'est quelque chose qui est très consulté parce que les journaux remarquent très vite quand ils sont présents dans ce petit widget en France, alors même que l'application Apple News n'est pas dispo en France, simplement le petit widget. Et c'est juste rigolo. Voilà, c'était pour le clin d'œil, pour dire qu'il y a eu 4 news qui étaient dans le fil d'actualité aujourd'hui. L'aéroport de Londres, Gatwick, est en arrêt après avoir été survolé par des drones. Il y a une news sur Xavier Bertrand et sur Carlos Ghosn. Et au milieu, il y a commerce. Marina Robinard reprend le salon de coiffure de Mézières sur Coutenon. Et donc là, on ne comprend pas trop pourquoi il y a cette news hyper locale qui tombe. Je pense que c'était un fail ou alors il y avait un stagiaire qui faisait la curation des news aujourd'hui dans le fil d'actualité sur iPhone.
Ça
Pauvre de
ressemble à
lui.
un pari, honnêtement, hein.
Ça ressemble à un vieux pari, ouais, entre potes, effectivement. Et bah, il a gagné son pari. Bravo, c'est bien joué. On enchaîne avec la rubrique en bref. On ne se leurre pas, hein, comme dans tous les épisodes. La rubrique en bref se veut être une rubrique avec des news qu'on passe rapidement, mais qui est toujours beaucoup trop longue. Avec une première partie sur la réalité virtuelle. Donne-nous le pouls de ce qui se passe dans l'univers de la réalité virtuelle en cette fin d'année 2018,
Bon, on
Guillaume.
commence par un truc très très court. Vous savez que Facebook et ZeniMax via Oculus étaient en procès depuis l'acquisition en fait, hein. Tout ça, enfin, depuis même avant, je crois, puisque Carmack qui était parti donc de ZeniMax avait prétendument en tout cas emporté de la technologie avec lui chez Oculus. Et bon, finalement, c'est bon, ils ont trouvé un terrain d'entente. Voilà, donc il n'y a plus de procès. Les termes précis de ce truc-là ont été gardés confidentiels. Bon, il est probable que Facebook,
Ils se sont
voilà, ait juste
arrangés.
payé un gros chèque et que voilà, ça va bien. Alors, ZeniMax demandait un montant complètement fou. On ne sait pas combien Facebook a payé, mais il a dû payer quand même pas mal.
Allez, soyez raisonnable, 30 millions, ça suffira. Allez, on
Ouais,
passe à autre
c'est peut-être
chose.
un truc comme ça, mais c'est peut-être plus 300 que 30. Mais bon, écoute, en tout cas, c'est
Ouais.
fini. Ce qui est fini aussi, c'est que IMAX ne fera plus d'arcade en réalité virtuelle. Voilà, de salle d'arcade en réalité virtuelle, IMAX y avait cru. D'ailleurs, c'était probablement celui qui faisait les salles les plus ambitieuses. Mais là, il avait donc déjà fermé des zones. Et là, il va fermer ses trois derniers emplacements qui sont à Los Angeles, Bangkok et Toronto. Et donc, c'est terminé, la VR, c'est terminé pour IMAX. Et d'ailleurs, c'est un gros problème pour le Star VR et pour donc ceux qui le fabriquent. Hein. C'est Star VR, c'est. Je vais pas y arriver.
Star
Oui, le
VR.
Star VR, tu sais, ce gros casque. Ah, je sais plus. Bon, enfin, tous les cas, voilà. Toujours est-il qu'effectivement, IMAX était un gros acteur. Et on pourrait dire que c'est quelque chose qui va dans le sens d'une VR qui décolle pas et qui va pas bien. Mais pourtant, il y a aussi exactement l'inverse, puisque à Paris, il y a un parc qui s'appelle Illucity, qui ouvre un truc VR Adventure. Donc, Illucity, c'est quoi? C'est un parc qui est fait par Imagis et Productman. Donc à Paris, c'est 1000 mètres carrés où il y aura 20 jeux vidéo qui peuvent être joués par 33 joueurs simultanément. Ce sera basé sur des Vive Pro avec des Vive Controller, mais aussi des PC en machin, là, des PC en sac à dos, des plastrons en retour haptique, etc., etc. Il y aura même des sièges rotatifs, donc il y a plein de trucs à faire, évidemment, assez sympa. Il y a des Escape Game VR de 40 à 60 minutes. Il y aura aussi des expériences plus courtes. Alors, l'expérience plus courte, c'est entre 8 et 12 euros. Hein. Les autres, c'est plutôt 30 euros. Et bah, voilà, avec certaines expériences, avec des trucs qui sont même connus des joueurs VR ou bien des trucs spécifiques. Toujours est-il que Illucity, c'est le premier, mais d'une longue série, puisque Productman voudrait ouvrir pas moins de 100 Illucity autour du monde dans les 2 prochaines années. Donc tu vois que finalement, on ne peut pas vraiment savoir à quel point la VR va bien ou mal. Il y a des tests qui se font.
Bon, à mon avis, elle va quand même pas très bien parce que c'est pas parce qu'on ouvre un parc et qu'on projette d'en faire 100 que ça va forcément mieux. Encore faut-il que le premier parc qu'on ouvre, fonctionne.
Exactement,
Et a
on va
priori,
voir
c'est pas
ça, on va
gagné.
voir ça. Tu as tout à fait raison. En tout cas, s'il fonctionne, ce sera peut-être le premier de beaucoup, de beaucoup. Toujours en VR, donc il y a aussi les Rolls-Royce, hein, il y a aussi les casques qui sont pas faits pour nous, pauvres péons, mais qui sont faits pour les professionnels. Et donc il y en a deux, je voulais parler en particulier du Ixtal. Donc c'est une startup Virginiers, voilà, Virginiers, que ça s'appelle. C'est un casque qui est très très impressionnant puisque il y a deux gros écrans Quad HD OLED qui permet d'avoir un champ de vision de 180 degrés. Alors évidemment c'est beaucoup plus grand, c'est le maximum en fait. Hein, c'est bien que les casques VR actuels ont un champ de vision qui est autour de 100 degrés, donc ça donne l'impression d'avoir des
C'est
lunettes de plongée
impressionnant,
quoi. Hein,
180.
et ça c'est un petit peu dommage. Donc avec le Ixtal, ça c'est terminé. On a donc deux gros écrans avec une bonne résolution et un énorme champ de vision. Donc le problème, c'est que ce truc-là, ça coûte quand même 5 800 $ et c'est fait pour les
Mais
professionnels. Donc oui, apparemment, il y a un marché pour les professionnels, pour la VR. Et il y avait même d'ailleurs un autre casque dont on n'a pas vraiment parlé, qui passe un petit peu sous les radars. C'est le casque Vario. Donc Vario, c'est une société.
It's me, Vargo.
Bravo, bravo, bravo. Pardon. Elle est pas mal. Écoute, elle est vraiment pas mal. Alors, c'est un casque, le Vario, qui marche plutôt pas mal.
Qui ressemble au casque de Dark Vador quand il est en photo.
Oui, alors en fait, il ressemble à n'importe quel casque un peu plus gros, tout simplement parce qu'il a une technologie qui est assez intéressante, qui est même probablement une des technos les plus intéressantes de ces derniers temps. C'est une technologie qui leur est particulière, qui résout le problème de la résolution dans les casques VR. En fait, le problème de la résolution, c'est que on a donc un écran, par exemple pour le PSVR, on a un écran 1080p, quoi, hein, donc ça fait 2 mégapixels. Pour les deux yeux, donc on a un mégapixel par œil. Évidemment, les pixels ils sont énormes. Bon, c'est pas très très sympa. Pour avoir,
c'est pas grave non plus, ça va.
C'est pas grave effectivement, mais bon, on est quand même très très loin d'avoir une résolution Retina. Et donc bien pour sûr. Avoir une résolution Retina, on s'est dit qu'il faut des écrans à 80 mégapixels. Et là, on se dit ça va pas être possible avant un sacré bout de temps. Sauf que finalement, chez Vario, qu'est-ce qu'ils font? Ils s'inspirent de l'œil humain. Ils se disent oui, c'est vrai, il faut beaucoup de pixels, mais sur une toute petite zone, puisque comme on l'a expliqué plusieurs fois. L'œil humain est constitué d'une petite zone qui s'appelle la fovéa, qui est en très haute résolution, et tout le reste, tout ce qui est autour, lui, c'est quelque chose qui est en basse résolution en fait. Donc ils se sont dit, ce qu'on va faire, c'est qu'on va pour chaque œil faire deux écrans. On va prendre deux écrans. On va prendre un écran normal, un écran de Vive quoi, voilà standard. Et puis on va prendre un autre écran à haute résolution. Mais ce qu'on va faire, c'est qu'on va avec un système de lentilles, on va le mettre en tout petit au centre de la zone de vision. Donc vous avez...
Eye tracking.
Alors le truc, c'est que pour l'instant, il n'y a pas de eye tracking. Donc, ça veut dire que le casque ne permet d'avoir la résolution maximale que si vous regardez droit devant vous. Si vous regardez droit devant vous, vous regardez donc avec votre vision fovéale l'écran en super haute résolution. Et tout autour, vous avez votre vision périphérique qui est prise en charge par un écran de Vive Pro normal.
Mais c'est pas con parce que, et après je te laisse terminer, mais parce que effectivement quand on porte un casque de réalité virtuelle, quand on veut voir quelque chose qui est à côté de ce qu'on regarde actuellement, en fait on bouge pas vraiment le regard, enfin ça doit arriver mais c'est très naturel de bouger la tête, du coup ça doit marcher plutôt pas mal, non?
Écoute, en tout cas leur premier modèle, parce que c'est leur premier modèle qui, donc, et qui existe déjà à l'état de prototype, voire de produit fini, puisqu'ils vous ont levé dernièrement 31 millions de dollars pour le produire et le vendre, ce premier modèle, lui, utilisera pas de eye tracking, en tous les cas, pas de eye tracking pour suivre ton regard. Ce sera une zone fovéale, la zone fovéale restera au centre du champ de vision. Mais par contre, effectivement, tu peux très bien tourner la tête et te déplacer n'importe où, comme en VR. Et ce qui est très intéressant, c'est que lorsque tu regardes dans cette zone fovéale, eh bien, tu as une résolution qui est identique à celle de l'œil humain. Donc ça veut dire que ce que tu vois a une résolution indiscernable de la réalité. C'est-à-dire les pixels ne sont pas visibles, ne sont pas discernables par chaque œil. Ce qui veut dire qu'on est, on est plusieurs années dans le futur, quoi. C'est-à-dire que là, on a vraiment une VR où ce qu'on voit est indiscernable de la réalité. Alors par contre, évidemment, il faut que la scène 3D qui est affichée soit à la hauteur. Hein, donc que ce soit par photogrammétrie, que ce soit avec des très très grosses cartes graphiques, il faut se démerder pour avoir donc une bonne résolution. Mais pas énormément, parce que évidemment, il faut rendre... à la fois, il faut rendre en très haute résolution uniquement sur là où on regarde, tu vois. Donc en fait, finalement, on doit rendre en 4K une zone, puis après on doit rendre en 1080p la zone périphérique. Donc il faut quelque chose de puissant, mais ça reste gérable. Et donc c'est quand même super intéressant. Alors, ça reste quand même un casque VR avec deux écrans par œil et un système optique très compliqué, donc ça coûte entre 5 et 10 000 dollars, malheureusement. Ce sera réservé aux professionnels pour le moment. Le casque version 2, en tout cas évidemment aussi, l'entreprise survit, mais bon apparemment ça a l'air d'être vraiment intéressant. Si l'entreprise survit, il y aura probablement une version 2 avec un eye tracking et probablement une manière de faire bouger la vision fovéale en fonction de là où tu regardes pour avoir tout le champ de vision couvert et pour avoir donc une résolution rétina sur la totalité du champ de vision, moyennant probablement des miroirs mobiles ou peut-être des lentilles mobiles, voire des lentilles liquides, parce que ça, c'est le genre de truc qui est aussi en recherche. Hein. J'avais déjà parlé des casques varifocaux, où on avait des lentilles mobiles pour l'accommodation, pour aider l'œil humain à accommoder plus ou moins proche de la truc, puisque sinon on est à focale fixe sur un casque VR standard. Donc là, c'est pour la profondeur en fait hein, qu'on règle. Là, sur les varifocaux actuels, il faudra trouver un système mécanique un petit peu vraiment sophistiqué aussi, je suppose, hein, pour pouvoir faire bouger la vision fovéale en fonction de là où tu regardes. C'est en recherche actuellement, mais donc voilà, Vario, voilà, ça fait partie des casques d'avant-garde, on va dire, qui seront probablement utilisés par les professionnels de l'année prochaine.
Une des solutions, après c'est vraiment du podcasteur qui délire, hein, mais une des solutions, c'est d'imaginer tout le socle de la dalle basse résolution plus les zones haute résolution dites vision fovéale comme un seul et même bloc et que ce soit tout ce bloc-là qui puisse bouger avec de l'eye tracking du coup. Ça pourrait être une solution en fait
Bah, en fait, non, en
potentiellement.
fait, il est inutile de faire bouger la vision périphérique. Il faut faire bouger que la vision fovéale.
Oui, effectivement, mais je pense que ça va être compliqué de faire bouger que la vision fovéale en gardant fixe la zone basse def.
Alors, bah
Du
non, bah, je
coup, c'est
pense
pour ça
pas,
que
parce que en
j'imaginais
fait, ce
associer les
sont deux
deux.
écrans qui, alors, ce sont deux écrans qui superposent de manière optique, c'est-à-dire qui superposent via une lentille, un miroir semi-transparent. C'est-à-dire que la vision périphérique, c'est un écran qui est
D'accord.
en face de l'œil, alors que la vision fovéale, c'est un écran qui est en bas de l'œil, si tu veux, en bas, et qui est projeté sur un miroir semi-transparent et qui est donc reprojeté sur l'écran où on a la vision périphérique. Donc c'est pas deux écrans qui sont physiquement l'un sur l'autre.
Ouais,
Ce
je
sont deux écrans
comprends. Ouais, je comprends la
séparés qui sont
subtilité, effectivement.
fusionnés de manière assez douce en fait, hein, pour que la jonction ne se voit pas. Donc ça fait voilà, du coup, effectivement, il faudrait agir sur les miroirs, si tu veux, peut-être, pour faire bouger la vision fovéale, mais ça c'est quand même complexe, mais c'est pas forcément infaisable.
Je rêve de pouvoir tester ça un jour, en tout cas, c'est très chouette. On enchaîne avec une rubrique qu'on aime bien, hein, qu'on ne développe pas toujours beaucoup dans Tech Café, parce que déjà d'autres le font mieux que nous. Et puis, bah, parce que toute l'actu tech s'y prête pas forcément, mais là, il y a quand même des petites choses qu'on peut relayer dans le domaine du gaming, notamment du côté de chez Nintendo. Alors, le Nintendo qui est bercé hein, par le succès de la Switch. Je crois que à l'approche de Noël, là, je trouve que ça se ressent aussi. Après, c'est peut-être ma vision qui est peut-être un peu biaisée, mais j'ai le sentiment que ça rencontre encore un fier succès dans les discours des gens qui se les offrent. Et je perçois même des adultes qui se les offrent alors qu'ils n'ont pas d'enfants. Et ça devient la console sympa quand tu veux passer des soirées. Il faut dire que entre Mario Kart et Mario Party et tous les jeux qu'on peut trouver maintenant sur le store, il y a de quoi s'occuper. Alors, en tout cas, la dernière news, ce serait donc l'arrêt de la production de la NES Mini pour de bon jusqu'à ce que ça reprenne et jusqu'à ce que ce soit à nouveau arrêté. Peut-être pour que ça reprenne après et pour que ce soit à nouveau arrêté,
Écoute,
Guillaume.
probablement, puisque ça a été arrêté, là ça va être réarrêté après que c'est repris. Le truc, c'est que là, bon, c'est Reggie Fils-Aimé qui, lors d'une interview, a annoncé que les NES classiques et les Super NES classiques, en tout cas aux États-Unis, mais probablement dans le monde entier, ne seront pas réapprovisionnées. Donc une fois qu'elles seront épuisées, elles seront épuisées. Donc ça sous-entend, si vous en voulez une, il faut peut-être pas trop tarder à l'acheter. Voilà. Donc c'est.
Ou vous achetez un
Ou
Raspberry et
vous
puis
achetez un Raspberry, ou vous achetez une Switch avec évidemment le pass, l'abonnement Super Rétro, parce que justement l'abonnement Super Rétro, eh ben, ça, apparemment ça a du succès, et surtout il y a un truc assez marrant, c'est que tu peux t'abonner pour 20$, mais si tu payes 60$ supplémentaires, tu peux avoir deux contrôleurs Switch qui ont et très exactement la forme de contrôleurs NES mais sans fil.
c'est fun
Et
ça.
ça marche apparemment très bien, il n'y a absolument aucun lag, même bien que ce soit complètement sans fil, hein, mais en tout cas ça marche super bien. C'est comme des Joy-Con, mais ça a la manette, ça a la tête d'une manette NES. Et donc bon, voilà, ça pourra plaire, hein, en tout cas à ceux qui aiment bien le rétro, puisque c'est vrai que jouer à Super Mario avec ça, c'est à Super Mario Bros 3 avec ça, ben, c'est vraiment comme à l'époque. C'est plutôt sympa. Est-ce que c'est cher? C'est pas cher. Ce sera à vous d'en décider. Un dernier mot pour dire qu'apparemment, la Nintendo 64 classique n'est pas du tout planifiée. Voilà, d'après encore une fois, ce qu'a dit Fils-Aimé, pour l'instant, NES et Super NES, c'est tout ce qu'ils vont faire en rétro voilà, pour le futur, en tout cas à moyen terme.
Jusqu'à ce que la 64 soit considérée suffisamment rétro pour sortir dans une version exceptionnelle. Et puis un petit mot aussi sur la prochaine Xbox, Guillaume.
Oui, bah oui. Alors la prochaine Xbox qui devrait arriver en 2020 et qui donc là, ce sera la génération Scarlett apparemment. La génération Scarlett aura deux incarnations. La première incarnation ce sera Anaconda, nom de code
Est-ce qu'on veut
Anaconda.
savoir qui a la
Ce
plus
serait à peu
grosse?
près ça. Bah là t'es tranquille. Anaconda la plus grosse hein, puisque ça sera le refresh de la Xbox One X, donc ce sera la machine top niveau. Et il y aura aussi une autre machine qui s'appellera Lockhart. et qui, elle, par contre, sera bah, donc le refresh de la Xbox One S, donc un truc top niveau, mais moins, effectivement. Bon, pour le moment, on n'en sait pas plus, hein. On sait évidemment que ça sera super, super mortel, avec toujours de l'AMD aux commandes, ce qui n'est pas très très étonnant, probablement du SSD, pour avoir des temps de chargement un petit peu plus courts, et bon, bah, après, on ne sait pas exactement comment ça va tourner, mais on suppose très très clairement que voilà, on s'achemine vers une machine qui sera donc rétro-compatible. Et bon, voilà, ça, un petit peu comme la Xbox One X était compatible avec Xbox One, voilà, on suppose qu'Anaconda sera compatible avec Xbox One X, etc. Donc on se PCise toujours plus, j'ai l'impression.
Et puis, juste pour revenir d'ailleurs sur la Switch, il semblerait qu'il puisse y avoir une nouvelle version là, qui arrive en 2019, ce serait logique, hein, dans la continuité. Alors, pas de grosse révolution, peut-être une petite revue très sensible du design, même écran, même techno d'écran. À l'intérieur, on ne saurait pas exactement s'il y a des choses qui changent, peut-être la batterie, et donc peut-être aussi plus d'autonomie, forcément, mais à suivre, mais peut-être pas une grosse révolution de la Switch, mais un succès, je trouve, technico-marketing, cette Nintendo Switch, assez intéressant à suivre. Ils ont réussi un chouette coup, je trouve. On enchaîne avec les derniers éléments de la rubrique en bref, à commencer par la Minute Crypto. Ça faisait un petit moment qu'on n'avait pas fait de Minute Crypto. Les dernières news en date, c'est que, alors on a les indicateurs, hein, des crypto-monnaies qui sont plutôt décevants, n'en déplaise le cours du Bitcoin, mais pourtant on a des indicateurs assez curieux quand même, Guillaume.
Oui, les cryptos ont plongé cette année de manière vraiment spectaculaire, hein, puisque le Bitcoin a perdu 80% de sa valeur par rapport à son plus haut. Et pourtant, le nombre d'utilisateurs, en tout cas de possesseurs de crypto-monnaies, a doublé apparemment. Et ça, c'est assez incroyable. En 2017, il y a eu énormément de... Évidemment, il y a eu énormément de gens qui ont pris des accounts, des comptes. Mais ce qui est assez étonnant, c'est que le nombre de gens dont l'identité a été vérifiée, donc des vrais utilisateurs, a continué à croître rapidement en 2018 aussi. Voilà. C'est assez, assez bizarre. Il y a toujours des gens qui croient, en tout cas, dur comme fer, aux cryptos. Écoute, pourquoi pas, je me suis déjà abondamment exprimé sur le sujet. Toujours est-il que dans le flux Telegram, j'ai vu passer donc un truc intéressant, c'était effectivement que le virement bancaire instantané allait se déployer progressivement en 2019, et c'est un truc, c'est un service bancaire, tout ce qu'il y a de plus standard, dans le sens où ce sont des banques normales, hein, qui vont faire ça, de manière complètement centralisée, enfin je veux dire, le truc standard. Mais ce qui est quand même intéressant, c'est qu'avec un simple numéro de téléphone, on pourra échanger de l'argent, et ça sera effectif en quelques secondes. C'est quelque chose qui est... alors évidemment, il n'y a pas la décentralisation qui est promise par les crypto-monnaies. Par contre, il y a cette espèce de fluidité aussi que les crypto-monnaies, elles, pouvaient donner. Il y a un plafond de 15 000 euros, donc c'est vraiment assez élevé en plus. Et c'est des virements qui peuvent être donc faits de manière instantanée, de pair à pair. Du coup, est-ce que justement c'est pas une manière de contrer un petit peu les crypto-monnaies et comme disait donc comme il était dit alors par plein de gens disons sur Telegram, du coup je vais essayer de pas en oublier, donc je vais dire personne, tu pourras compléter si tu te souviens de qui il s'agissait, mais je veux dire je ne veux oublier personne, mais c'est vrai que c'était quand même assez intéressant. Est-ce que justement c'est pas quelque chose qui va être de nature à contrer donc Apple Pay, Google Pay, ou voire même les crypto-monnaies, ça peut être quelque chose à suivre aussi pour l'année suivante, pour l'année 2019.
Ouais, c'est sûr qu'en termes d'usage, c'est clairement quelque chose qui pouvait générer beaucoup de frustration, et tant mieux si ça avance dans ce sens-là, ça c'est clair. Le problème était souvent d'ailleurs à l'émission, hein, du virement, puisque la réception des virements bancaires, elle était pratiquement instantanée, mais c'était le fait d'envoyer le virement qui pouvait prendre du délai. C'est très bien qu'effectivement ça arrive. Google Photos qui vous demande, c'est bizarre quand même, de compresser vos vidéos. Tu as mis vos vidéos et photos, mais il me semble, si je dis pas de bêtises, surtout vos vidéos. Et on sait que Google Photos est une application qui stocke de manière illimitée tous vos contenus, photos et vidéos, à condition d'accepter une légère compression qui avait été étudiée, hein, d'ailleurs, au lancement de Google Photos, et qui s'est un petit peu même encore améliorée, mais qui est déjà très impressionnante au départ, puisqu'on garde une très bonne qualité tout en optimisant pas mal le poids, semble-t-il, des fichiers. Jusque-là, on pouvait sauvegarder en tout cas tout ce qu'on voulait. Là, la messe est dite, hein, et la fête est un peu finie pour Google Photos. On ne fait peut-être plus autant n'importe quoi qu'avant.
Oui, bah, en fait, il y a une série de trucs, de formats qui sont supportés. Et si, sinon, bah, vous ne pourrez juste pas les uploader, parce que bon, bah, globalement, c'est les fichiers RAW, les fichiers VOB, donc les fichiers qui sont vraiment très très gros, qui ne seront plus acceptés, tout simplement. Donc oui, globalement, ça veut dire bah, oui, compresser vos fichiers quoi, avant de les uploader, puis on les gérera, sinon, no way. Bon, bah, ça paraît à peu près classique, ouais.
Et un dernier petit mot au sujet de Verizon et de sa situation, notamment avec des filiales. Verizon, c'est l'opérateur américain, un des principaux, hein, je ne sais plus si c'est vraiment le premier, mais c'est un des principaux en
oui,
tout cas.
Oui, c'est un géant des télécoms américains. Et donc ce géant des télécoms américains voulait évidemment bah, voilà, il est en compétition avec d'autres géants évidemment. Hein, et évidemment... oui, parce qu'il ne faut pas oublier qu'AT&T, donc un concurrent, un autre géant de télécom américain, a quand même acheté Time Warner cette année. C'est pour donner une idée de la taille du truc. Hein. Comcast, un autre concurrent, lui, avait voulu acheter 20th Century Fox. C'est pour te donner l'idée de la taille, tu vois, des gens auxquels il fait face. Et donc, bon, voilà, Comcast voulait acheter 20th Century Fox, il n'a pas réussi, mais il a quand même NBC Universal, ce qui n'est pas petit comme compagnie de production. Et donc, Verizon, lui, sa stratégie média, ben, c'est une stratégie étrange puisqu'elle était centrée autour de Yahoo et AOL.
Bon. Des fleurons voilà. du média.
On croyait qu'ils étaient morts, mais en fait, ils n'étaient pas vraiment morts. Ils étaient transformés en ghouls et ils ont bouffé Verizon vivant de l'intérieur, plus ou moins. Hein. Puisque leur achat donc, a coûté 4,6 milliards de dollars, plus ou moins, à Yahoo AOL, qui est devenu Oath par la suite d'ailleurs. Et donc globalement, ça s'est très mal passé, puisque pour l'instant, Verizon se sépare de 10 000 personnes, de manière volontaire, c'est des départs volontaires, parce que, ben, en gros, l'acquisition a foiré, et que Go90, donc leur service de vidéo, a dû fermer cette année, et que, globalement, au niveau publicité, Verizon n'arrive absolument pas à être au niveau de Google, alors qu'il utilise les plateformes Yahoo et AOL hein, pour diffuser de la pub, mais ça marche très très mal. Du coup, ça va pas super bien pour Verizon, qui se retrouve avec voilà, une grosse fin d'année déficitaire.
C'est pas rigolo pour eux, mais c'est intéressant hein, malgré tout de regarder ce qui se passe du côté de ces entreprises qui sont d'énormes mastodontes de fournisseurs d'accès à Internet et bah, qui tentent probablement de se réinventer, de trouver des relais de croissance qui passent par le média. Alors les choix de Verizon sont peut-être un peu plus discutables que les autres, j'aurais pas forcément autant misé dessus, mais bon. On a fait le tour des news de cette semaine et puis c'était surtout le tour des news qui closent, j'arrive plus à parler hein, ce soir, qui vont clore cette année 2018. Merci beaucoup d'avoir suivi toutes ces news et puis vous aurez de prochains épisodes en 2019. Désormais, on va prendre une petite pause hein, autour de l'actualité tech dans le cadre du podcast Tech Café. Par contre, on ne se quitte pas sans quelques bonus parce qu'on est fidèle à notre tradition. Guillaume, qu'as-tu emmené dans ta besace pour les bonus de ce 111e épisode de Tech Café, le dernier de 2018
ben, comme c'est Noël, je vais recommander un livre qui est sans doute immanquable pour tout amateur de jeux vidéo. Hein. C'est « Du sang, des larmes et des pixels » de Jason Schreier. Donc l'auteur est assez connu puisqu'il est rédacteur chez Kotaku, il connaît le milieu depuis assez longtemps. Et dans le livre, ben, il raconte la genèse de titres qui sont quand même mondialement connus, hein, comme Destiny, Dragon Age, Uncharted 4, The Witcher, mais aussi des plus petits comme Stardew Valley ou Shovel Knight. Et donc surtout, il raconte à quel point ça s'est mal passé, leur développement, et pour quelles raisons. Parce que, bah, comme son titre l'indique, hein, ça a été super super dur dans tous les cas, donc on parlait des crunchs monstrueux de Red Dead Redemption 2. En fait, dans ce livre, on constate que bah, c'est presque plus la règle que l'exception. Voilà, donc on voit à quel point, malgré 40 ans d'existence, hein, l'industrie du jeu vidéo est toujours sur la corde raide, un peu quoi, tiraillée comme ça entre créativité et besoin de rationalité industrielle. Quoi. C'est vraiment une industrie qui brasse des dizaines, des centaines de milliards de dollars par an. Et donc, bah, ouais, donc c'est vraiment passionnant. On apprend vraiment plein de choses.
D'où vient le problème ? D'où vient le principal problème ? Qu'est-ce qui fait que dans cette industrie, il y a autant de difficultés par rapport à des sorties comme ça sur le plan technologique alors qu'il y a un tel marché.
Oh, y a...
Est-ce qu'on ça s'explique?
Oui, bah ça s'explique, ça explique un peu au cas par cas parce que chaque c'est vrai que chaque jeu quand même a des ouais. difficultés différentes, mais globalement il y a y a un problème de fric hein, tout simplement. C'est les jeux coûtent cher à développer, ils coûtent d'autant plus cher à développer que tout simplement ils sont ambitieux. Mais même les jeux qui sont moins ambitieux comme Shovel Knight par exemple ont besoin d'argent, de beaucoup d'argent. Et du coup, selon les modes de financement, ben on va être confronté à des contraintes différentes. Par exemple, sur donc Destiny, donc ils avaient un fric monumental, puisqu'ils ont finalement été... alors, ils étaient donc, c'est Bungie, donc c'est les ex-Microsoft, ils étaient sous chaperon de Microsoft, ils ont voulu prendre leur indépendance, ils ont voulu faire Destiny, et en fait, ils ont réussi à décrocher un contrat avec Activision qui est absolument pharaonique. Donc, le fric, c'était pas le problème. Le problème, c'était la vision, le problème, c'était de faire quelque chose de cohérent, d'avoir une histoire cohérente, et surtout, d'être à la hauteur des attentes qu'on génère quand on a un contrat de 500 millions de dollars, pas pour un jeu. Donc il y avait ce donc après ça peut être des problèmes si tu veux qui sont de cet ordre-là, c'est des problèmes créatifs quoi hein, quelque part. Pour Dragon Age, c'était clairement des problèmes techniques parce que clairement le jeu vidéo c'est quand même un médium vraiment particulier, un art vraiment particulier parce que il y a encore probablement beaucoup plus que dans tous les autres arts graphiques, etc. C'est quelque chose qui est très technique, en fait. C'est, à la base, c'est quand même un logiciel.
Ça repousse les limites de la technique.
Voilà, c'est un logiciel. Donc, c'est un logiciel qui tourne sur des ordinateurs, sur des machines. Et du coup, c'est tous les problèmes techniques qu'on peut imaginer, et même ceux qu'on n'imaginait pas, tombent dessus. Donc, dans le cas de Dragon Age, par exemple, le problème, c'est que la technologie, ça évolue très vite. Donc, les outils de développement, ils doivent suivre. Les logiciels, les moteurs, les outils qu'on développe sur ces moteurs pour créer des jeux, ils doivent évoluer aussi. Donc Dragon Age, par exemple, ils sont passés au moteur Frostbite. Et le problème, c'est que Frostbite, c'était une technologie qui, à l'époque, n'était pas du tout maîtrisée par le studio, qui n'était pas du tout prévue pour faire ce que le studio voulait. Et donc, ça a été un cauchemar intégral pendant la totalité du développement, tu vois, par exemple. Dans Uncharted 4, c'était plus des problèmes créatifs où les gens voulaient... je déflore peut-être un petit peu le bouquin, mais après, il y a des choses qui sont assez connues. Le départ d'Amy Henning, par exemple, de Naughty Dog, c'est quelque chose qui est une notoriété publique, qui a beaucoup fait parler pendant le développement d'Uncharted 4, donc je ne vais pas forcément vraiment dire spoiler quand je raconte ça. Donc, Amy Henning avait écrit une histoire, et donc elle est partie. Et puis, les gens qui s'étaient attaqués, donc qui avaient fait The Last of Us, sont passés sur Uncharted 4, et donc ils n'avaient pas les mêmes visions, donc évidemment, ce qui avait été développé pour une version de l'histoire a dû être redéveloppé, et ça implique des studios qui ont des centaines de personnes qui travaillent simultanément sur un jeu, et ça coûte des millions et des millions de dollars, parce que on estime, par exemple, que dans un studio de développement de jeux vidéo, un mec qui, le prix, si tu veux, de ce travail-là, c'est 10 000 dollars par mois et par personne. Parce qu'il y a le salaire du mec, il y a les charges sociales, il y a la location du studio, il y a les frais annexes, etc., les taxes, bien sûr, etc., etc. Ouais, et donc 10 000 dollars par personne et par mois, quand un studio qui fait 250 personnes, c'est faire un jeu sur 2 ans, 3 ans, tu fais le calcul, quoi. Donc si c'est des contraintes financières monstrueuses, il faut... perpétuellement faire travailler les gens parce que sinon en plus tu perds de l'argent, tu perds quoi, tu vois. Et donc tout ça c'est vraiment très très compliqué sur des très très gros projets. Donc c'est vraiment très bien expliqué dans le livre hein. Évidemment pour Shovel Knight ça a été un peu différent, c'est une toute petite équipe mais qui a eu d'autres problèmes puisque là aussi c'est pas un spoil hein. Shovel Knight a été financé sur Kickstarter, donc c'est vraiment quelque chose si tu veux qui donc c'est vraiment quelqu'un qui a donc un spectre assez large qui parle de plein de jeux avec plein de difficultés différentes qui viennent en fait de la multitude de talents en fait qu'il faut regrouper pour faire un bon jeu. Voilà. C'est quelque chose de compliqué parce que c'est quelque chose qui est multiforme. C'est un jeu vidéo, c'est quelque chose qui est vraiment multifactoriel quoi, qui est multifacette et chacune de ces facettes peut en gros déclencher une catastrophe.
C'est hyper intéressant. Je trouve que c'est donc un livre, c'est un gros bouquin, c'est un petit bouquin.
C'est un bouquin qui est assez gros dans son format, mais qui se lit assez vite en fait, hein, parce qu'il est, déjà il est, pas, il écrit assez gros, et puis ça se lit très très bien, quoi. C'est vraiment très très facile à lire, très très fluide. Et puis c'est super intéressant, évidemment, si vous êtes intéressé par par le sujet. Mais bon, je pense que c'est un joli cadeau, en tous les cas.
Eh ben écoute, c'est super. Moi, ça m'intéresse vraiment. Moi qui ne suis pas forcément un grand expert du développement de jeux vidéo, ça m'intéresse parce que j'ai l'impression qu'il y a des ressorts économiques un peu et presque culturels là-dedans qui sont hyper intéressants. Je vais aller jeter un coup d'œil. J'en profite d'ailleurs hein, parce qu'on est dans les recos des choses à laisser au pied du sapin. Je ne sais pas s'il est encore temps de commander des livres écrits par un certain Guillaume Poggiaspala. Il y a notamment Machine de jeu, qui est un livre où tu as décrit toute la rétrospective. Des microprocesseurs pour les consoles de jeu et qui est évidemment à la hauteur des chroniques que tu peux faire. Donc si vous connaissiez pas encore Guillaume Poggiaspala, l'écrivain, allez jeter un coup d'œil sur à peu près toutes les bonnes boutiques. Vous pouvez aller jeter un coup d'œil. Donc c'est Machine de jeu, Machine au pluriel, de jeu au pluriel par Guillaume Poggiaspala. Et tu as d'ailleurs aussi sorti dans une autre mesure un petit livre. J'oserais appeler ça une nouvelle, mais c'est trop autobiographique pour être simplement caractérisé comme une nouvelle sur ton changement d'accès à Internet, ou en tout cas une tentative de changement de nouvelle offre d'accès à Internet. Allez jeter un coup d'œil là aussi. Partout où vous trouverez des résultats de livres avec Guillaume Poggiaspala, ce sera probablement celui-ci. Moi, j'enchaîne avec mes petits bonus pour aller très très vite. Alors, je vais passer rapidement sur ce que j'avais prévu de détailler puisque j'ai déjà dit en intro. Mais si vous êtes en manque de podcast en cette fin d'année et si vous ne connaissez pas encore Niptech, allez écouter la rétrospective 2018 et les Anticipation 2019 avec toute une partie inspiration avec Ben et Mike, les deux co-animateurs de Niptech, et puis Matt, mon ami de Relife. On a participé tous les quatre donc à ce podcast de fin d'année. Vous serez pas sans retrouver des thèmes qu'on a abordés dans Tech Café, mais aussi des thèmes qu'on a peut-être abordés de manière plus indirecte ou peut-être pas du tout d'ailleurs. Donc allez écouter, ce sera, je pense, très complémentaire. Et puis il y a toujours cette app, Guillaume, tu sais, qui circule au moment des fête de fin d'année et qui est extrêmement virale parce que tu la montres à toute ta famille, ça fait marrer tout le monde, tu te détends, etc. Moi, je pense que j'ai trouvé l'app que tout le monde s'arrachera pendant le dîner de Noël ou de Nouvel An. C'est Mug Life. Je ne sais pas si elle est dispo sur Android, il faudra que je revérifie, mais c'est Mug, M-U-G, espace Life, comme la vie, sur iOS, et vous partez d'une photo. Et il arrive à repérer les points qui correspondent aux différents éléments qui composent les visages de la personne qui est dans la photo, pour après l'animer, lui faire dire des trucs. Il y a un côté deepfake qui est assez fascinant, et c'est très très impressionnant techniquement. Je trouve que la façon dont c'est codé fait que les résultats sont vraiment bluffants, presque dérangeants, et ça en dit long encore sur ce qui va se passer dans les années à venir, comme on l'a déjà dit dans Tech Café, sur la manipulation de l'image, la manipulation de la vidéo, et ce qu'on peut faire dire aux gens. Vous pouvez les tester, c'est gratuit et c'est hyper bien développé. Merci beaucoup à vous qui nous écoutez toute l'année pour Tech Café. On se retrouve en début d'année, on ne sait pas exactement quand, mais dans les premières semaines de janvier 2019 pour reprendre l'année de plus belle. Sur les petits éléments d'information, sachez juste que le podcast reste dispo sur Spotify, mais actuellement indispo sur Deezer. Alors il l'était plus, il l'a re-été, il l'est re-plus. J'ai en contact Cyril de chez Deezer avec qui j'échange par mail. J'ai pas plus d'infos que ça. Je pense qu'il a peut-être travaillé un petit peu à la sécurité sociale une autre période de sa vie. Le pauvre. Non, je l'incrimine pas parce que je sais pas ce qui se passe, mais effectivement Tech Café n'est pas dispo en ce moment sur Deezer au moment où on enregistre. J'espère que ça va revenir très vite. Merci beaucoup en tout cas de votre fidélité. Merci de participer autant que possible au financement de l'émission, pour participer à la rémunération du travail qu'on peut faire de curation de contenu, d'animation et de mise à disposition de ce podcast. Guillaume, où est-ce qu'on peut te retrouver sur Internet?
On peut me retrouver probablement complètement bourré à la veille du Jourdain, mais bon, d'ici là, peut-être un petit peu sur Telegram. En tous les cas, voilà, je pense que on va passer des fêtes assez sympatoches. On se retrouve donc en 2019, ré-dispo, n'est-ce pas?
Ah, bien sûr, si jamais on a bien digéré nos repas de fin d'année. Et évidemment, on sera disponible, tu as raison de le rappeler, pour discuter sur Telegram, qui est cette application de messagerie. Il y a un groupe d'échange sur Telegram pour Tech Café, dont vous avez le lien dans les notes de l'émission. Merci beaucoup de votre fidélité, à très bientôt pour un prochain épisode de Tech Café en 2019. Ciao,
ciao
à tous
et bonne fête à tous. Bye. We'll be right back.